Bonjour et bienvenue dans Questions politiques, le magazine politique de France Inter, France Info et Le Monde. Notre invité aujourd'hui est Thierry Mandon, secrétaire d'État chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il répondra à vos questions en direct à partir de 13h15 au 01 45 24 7000 sur franceinter.fr et via Twitter avec le mot-clé Questions Paul. C'est parti pour le magazine politique de la semaine. Soyez les bienvenus.
France Inter, Questions politiques. Nicolas Demorand.
Mais pour commencer, amis auditeurs, un mot, les règles de décompte du temps de parole politique imposées par le CSA nous ont contraints à désinviter Martin Hirsch, directeur général de l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Nous lui présentons nos excuses les plus plate et l'inviteront avec plaisir à nouveau. D'ici là, vos rendez-vous, le portrait de Thierry Mandon, signé Karine Bécard, le zapping de Laurence Perron, une bien triste histoire d'amour, vous le verrez. Mais tout de suite, le meilleur de l'humour politique sur Inter, Charline Vanhoenacker dans le 7-9, mercredi dernier, sur les modalités de la primaire des socialistes.
Parlons-en de ces primaires.
On s'en fout, on n'y va pas, on a qu'à se cacher sous les draps, on commandera des pizzas, toi la télé.
Attendez, je charrie, tout le monde sait que les socialistes ont prévu un showcase de Benjamin Biolay pour attirer les électeurs dans le bureau de vote à Saint-Germain-des-Prés. Attendez, il y a un bureau de vote à Saint-Germain? Oh, même pas sûr. Non, parce qu'il y a moins de bureaux de vote qu'en 2011 et c'est normal, il y a moins d'idées. Alors quand je tape le nom de ma rue, il se passe rien, mais Jean-Christophe Comanelis a promis un maillage de qualité. À mon avis, ça veut dire que si tu tapes rue de Solferino, ça marche très très bien. C'est là au siège du parti que lundi, le premier secrétaire du PS a fait une simulation de bureau de vote. Alors vu qu'il s'agissait d'une répétition, il s'est fait plaisir. Il a imprimé les bulletins Léon Blum, Jean Jaurès, Louise Michel. Allez, c'est pas parce qu'on a laissé tomber leurs idées qu'on peut pas jouer un petit peu avec. Cambadélis a précisé que personne n'est à plus de 30 minutes d'un bureau de vote. Mais bon, il a pas dit si c'est 30 minutes en train ou en avion. Bon, après, quand on veut voter à gauche en 2017, je veux dire, on n'est pas à 100 km près, hein. Non, parce qu'il faut avoir de la volonté quand même. Pour être bien équipé, les bureaux de vote vont recevoir le kit de la Belle Alliance Populaire. Je me suis renseigné sur le contenu de ce kit, il comprend une boîte de Tranxène, du détachant en cas de jet d'eau de farine, le livre de confession de François Hollande, pour se rappeler qu'on n'a vraiment aucun regret. Et alors, attendez, parce qu'il y a aussi un CV de Jean-Vincent Placé qui s'est glissé. Voilà. Alors, le plus utile dans ce kit des bureaux de vote, c'est une photo de Benamia, Spinel et De Rugy, pour bien les reconnaître au cas où ils viendraient voter dans votre bureau. Pour le reste, on connaîtra très précisément le nombre d'électeurs de droite qui seront venus noyauter la primaire. Il suffira de regarder le score de Manuel Valls. Alors, je suis optimiste. Non, mais si, il y a du suspense. Le plus gros enjeu de cette primaire étant de savoir lequel des 7 candidats va faire moins que le score de Jean-François Copé. Bien, côté festif, cette primaire, c'est un petit peu comme organiser le pot de départ d'un type qui a gonflé tout le personnel dans l'entreprise pendant 5 ans. Je rappelle que le scrutin se tient les 22 et 29 janvier. Donc les socialistes vont peut-être enfin comprendre ce que veulent dire les fins de mois difficiles.
Charline Vanhoenacker dans le 7-9 de Patrick Cohen. On passe au zapping politique de la semaine. Une histoire d'amour malheureuse, celle de la gauche socialiste et de la France. Une France de gauche déçue par le quinquennat Hollande et qui pourrait se laisser séduire par Emmanuel Macron ou Jean-Luc Mélenchon. Une France de gauche à laquelle les 7 candidats à la primaire semblent dire « ne me quitte pas ». Laurence Perron.
Ne me quitte pas. Il faut oublier.
Sur la déchéance de la nationalité.
Manuel Valls.
Tout s'oublier.
Bien sûr que ça a divisé la gauche.
Qui s'enfuit déjà.
Ça a été un débat difficile, douloureux.
Oublier le temps.
Mais enfin, cette vision, cette loi, cette idée, elle visait qui? Elle ne visait pas les enfants de la République en fonction des origines. Elle visait les terroristes d'abord.
Oublier le temps. Des malentendus et le temps.
Tout.
Déteste
le PS, PS,
oublier ses heures.
Difficile à défendre.
Arnaud Montebourg.
Parfois, un coup de pourquoi le cœur du bonheur.
Alors moi, je ne suis pas la gauche sectaire.
Vincent Payon.
Ni la gauche brutale.
Ne me quitte pas.
La présidentielle, ce n'est pas un concours épique.
Manuel Valls, encore.
Ce n'est pas jeu des petits chevaux.
Moi, je t'offrirai.
J'abrogerai la loi El Khomri.
Des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas.
L'entreprise, c'est pas la guerre civile.
Sylvia Pinel.
On peut avoir des relations de confiance, des relations apaisées.
Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière.
Je pense qu'il y a des mots qui chantent plus qu'ils ne parlent.
Benoît Hamon.
C'est Paul Valéry, je crois, qui disait cela. Et je crois que la République, parfois, chante plus qu'elle ne parle.
Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas.
On ne peut pas répondre à cette question par oui ou par non.
François de Rugy.
Mais moi, je veux que l'on soit clair. Celui ou celle qui sera désigné par cette primaire, moi, je ne veux pas qu'au lendemain de la primaire, ils disent que son premier rendez-vous est avec Jean-Luc Mélenchon. Parce que je vais vous dire, ça me fait penser à une petite chanson dont le refrain, il y a quelques années, était « C'est l'agneau qui invite le loup à dîner ». Parce que c'est clair et net, Jean-Luc Mélenchon, il ne va pas se retirer.
On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux.
Je vais faire une première mondiale. Je serai présent à Lyon, personnellement et physiquement.
Jean-Luc Mélenchon.
Et je serai présent à Paris grâce à un hologramme. Vous allez donc assister au premier meeting holographique en direct du monde. Quoi qu'ils puissent espérer tous, je peux me dupliquer en plusieurs exemplaires. Si bien que l'embêtement permanent que je représente pour eux est quasiment inextinguible.
Il est, paraît-il, des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et quand vient le soir, pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas, ne me quittent
pas. Et pendant ce temps, à Berlin, Emmanuel Macron.
Ce serait tellement plus simple, surtout dans une campagne présidentielle, de dire que je vais
renverser la table pour parler durement aux Allemands.
C'est le meilleur moyen d'être populaire en France. Mais c'est une impasse.
Il
faut oublier.
Ségolène Royal est, paraît-il, conquise. Voilà qui ulcère le très valsiste député de l'Essonne, Malek Boutil.
Ouais, je vois, il y a une vieille génération là qui est au bord de la retraite.
Il est asticoté par Julien Lenglet.
Qui essaye de casser la maison avant de se barrer. Tous ceux qui ont raté leur occasion dans l'histoire, qui n'ont pas arrêté de pleurnicher toute leur vie sur le thème la division, j'ai pas été soutenu, on m'a saboté. Et qui, dès qu'ils ont l'occasion, font la même chose, c'est-à-dire la maladie politicarde de base, quoi. Pas de problème, ils ont qu'à aller chez Macron.
Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien, mais ne me quitte pas, ne me quitte pas.
Magnifique zapping politique signé Laurence Perron, ne me quitte pas Jacques Brel qui nous a foutu le bourdon. Nous nous sommes tant aimés. Bonjour Nathalie Saint-Cricq.
Bonjour, je confirme. On va essayer de tenir.
Arnaud Le Parmentier, je vous ai beaucoup aimé également et vous aime toujours.
Bonjour Nicolas.
Le quotidien Le Monde, vous l'incarnez à cette table et à ce micro. Karine Bécard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes de France Inter. Quel événement, ma chère Karine, vous a marqué cette semaine?
Moi, j'ai envie de vous parler de François Fillon. Plutôt un ovni politique pour son propre camp. Pour l'instant, à droite, il y a beaucoup de gens, beaucoup de parlementaires notamment, qui se montrent... un peu inquiet, j'ai même envie de dire très inquiet. Alors pourquoi est-ce qu'ils sont inquiets? Parce qu'ils n'ont pas l'habitude de ce style très inflexible, de j'irai jusqu'au bout, pas de zigzag, va falloir vous habituer à mes sourcils broussailleux, comme il l'a dit cette semaine. Alors en fait, ces parlementaires, ils sont inquiets parce qu'ils n'arrivent pas à savoir si c'est bien ou pas tout ça. Ils se disent, finalement, c'est la première fois qu'on a un candidat depuis au moins 20 ans qui n'est pas démago, qui n'est pas totalement démago. On n'est plus dans Sarko, on n'est plus dans Chirac. Ça va plaire, c'est ce que les Français veulent. Et en même temps, ils ont tellement plus l'habitude de ne pas se faire entendre du candidat, eux, les élus, et puis de se dire, normalement, on est là pour faire plaisir aux électeurs, qu'ils sont totalement perdus. Alors, ils se disent, on va tenter, ça peut marcher. Et en même temps, ils sont effrayés parce qu'ils sont totalement dans un truc qu'ils connaissent pas.
Le Parmentier, l'événement de la semaine pour vous?
C'est celui que vous avez sûrement pas entendu sur France Inter, où je dois me tromper. C'est les résultats,
allez-y.
La croissance en Allemagne, 1,9% tiré par la consommation intérieure, un excédent budgétaire énorme, 20 milliards d'euros, et tout ça en dépit des 20 milliards d'euros consacrés aux réfugiés, un chômage qui est au plus bas depuis la réunification, 6%, et les salaires augmentent. Non, les salaires allemands, ils ont le SMIC désormais, et il n'y a pas une des hordes de pauvres qui se pressent en France pour trouver un emploi. Donc les salaires ont augmenté de 1,9% hors inflation, 420 000 emplois créés l'année dernière et depuis 2010. Donc si on prend la France et l'Allemagne, elles avaient la même dette, 81% du PIB. Mais aujourd'hui, l'Allemagne est à 68%, tandis que la France est à 97%. Donc une divergence abyssale en 6 ans. Résultat, qu'est-ce que ça montre? Eh bien, ça montre que austérité, croissance, accueil des réfugiés et plein emploi, tout cela, c'est compatible, c'est chez Angela Merkel. Alors, Emmanuel Macron est allé faire un petit pèlerinage à Berlin où il a critiqué ses excédents allemands. On aimerait bien avoir les mêmes. Et on attend que François Fillon y aille le 23, juste après le premier tour de la primaire.
Votre germanophilie se teinte d'une touche de francophobie, Arnaud Le Parmentier, non?
Non, c'est pas ça. C'est que je me prépare à attendre l'élection présidentielle avec des candidats de droite ou de gauche, peu importe qui l'emportera, qui arrivera et qui dira « Ah, j'ai naturellement besoin de refaire un petit peu de déficit, encore un peu de temps, monsieur le bourreau, pour faire mes réformes. » Vous voyez que l'expérience allemande, qui est très longue, hein, ça a mis, ça, c'est un travail qui s'est fait sur 15 ans de refonte, d'abord du code du travail, mais aussi de l'éducation, puisque les Allemands avaient réagi au choc de l'étude PISA en 2001. Donc, ils ont fait quelque chose qui est lent. Le redressement, c'est du temps long.
Enfin, tout ça n'assure pas la réélection d'Angela Merkel, si?
Ah, ça, je veux bien prendre le pari. Et d'ailleurs, si elle perd, ce ne sera certainement pas sur son bilan économique. Ce sera effectivement sur le fait d'avoir été trop généreuse vis-à-vis des réfugiés.
Si vous prédisez sa victoire, Arnaud,
Qu'elle va perdre.
Elle perdra. Nathalie Saint-Cric.
Avant qu'Arnaud n'émigre en Allemagne, moi, je voulais rendre hommage un peu comme Laurence Perron et différemment tous les candidats à la primaire. On a vu ça l'autre soir, ce débat, c'est une espèce de marathon. On a l'impression d'être dans On achève bien les chevaux. C'est-à-dire qu'ils vont se taper, pour parler vulgairement, 3 débats en 10 jours, et puis ils enchaînent meeting après meeting. On a vu une image d'Arnaud Montebourg à Bordeaux, dans la rue, devant une vingtaine de personnes, un petit peu s'époumonner en essayant de faire venir du monde pour convaincre. Ils saturent les médias, je trouve que ça a quelque chose d'un petit peu triste, même si on peut leur rendre hommage pour leur courage. Et puis, pendant ce temps-là, il y a Emmanuel Macron, comme l'a dit Laurence Perron, qui marche sur l'eau, qui fait ici 5 000, ici 2 500, alors que le pauvre Manuel Valls à Liévin avait une salle où on a mis des paravents pour donner l'impression qu'elle était moins grande que ce qu'elle n'était. Et puis le summum, c'est Jean-Luc Mélenchon qui, lui, remplit tellement qu'il a besoin d'être ubique. Donc, pour répondre à son problème d'ubiquité...
L'hologramme est incroyable.
Là, on se demande si on n'est pas quand même dans une autre dimension. On avait vu Claude François sur scène danser alors qu'il est mort. On a vu Dalida, on a vu tout ça. Maintenant, on va voir Jean-Luc Mélenchon qui est bien vivant.
Moi, je trouve personnellement que c'est une idée géniale.
C'est une idée géniale.
Se démultiplier, mais par moment, c'est formidable.
Si on est dans Star Wars ou si on est dans la politique. Bref, ils sont tous courageux et surtout ces socialistes qui sont encore en débat ce soir et la semaine prochaine qui essaient de donner envie, d'avoir envie. Et parfois, ils sont vraiment à la peine.
L'hologramme de Jean-Luc Mélenchon, Arnaud Le Parmentier.
Ah ben, il préfère Merkel.
Non, Jean-Luc Mélenchon est absolument
est-ce qu'on dit la Merkel
le Jean-Luc Mélenchon est absolument il est en fait le candidat des GAFA, des Google, Apple, Facebook. Toute cette technologie américaine, ça lui permet de prôner la révolution internationale chavésiste. Non, ce que j'ai noté quand même, c'est que Jean-Luc Mélenchon devient tout à fait sympathique, très souriant, il attaque plus personne, il dit moins de mal des journalistes.
Il veut dire quoi?
Il commence à se prendre au sérieux. Il se dit, mais ça pourrait peut-être marcher. Moi, je crois que Jean-Luc Mélenchon espère que l'effritement généralisé de tous les candidats lui permettra de faire la surprise.
Il se trumpise aussi parce qu'il essaie de court-circuiter systématiquement les journalistes. Hein. Il tweet, il parle directement sur sa télé.
Oui, mais il les insulte plus.
Enfin, quand il les rencontre, il continue quand même.
Oui, c'est...
Bon, mais en tout cas, on retiendra l'hologramme qui est quand même plus qu'un gadget, qui permet effectivement de faire meeting partout.
Ah non, c'est pas un gadget.
C'est vraiment
un outil
politique très nouveau. Quand on voit sur Facebook aussi, les meetings de Jean-Luc Mélenchon sur Facebook sont extraordinairement suivis. On peut voir le nombre de spectateurs virtuels à travers le réseau social. C'est
et lui aussi refuse du monde. Ils sont deux à refuser du monde pour l'instant, c'est Macron et Mélenchon.
Exactement.
Il est bientôt 12h20 sur France Inter. Place au portrait de notre invité.
France Inter, Nicolas Demorand. Question politique.
Le portrait donc de notre invité aujourd'hui, le secrétaire d'État Thierry Mandon, portrait signé Karine Bécard.
Bonjour Thierry Mandon.
Bonjour.
Thierry Mandon, depuis le début du quinquennat, vous avez multiplié les fonctions. Vous êtes aujourd'hui secrétaire d'État chargé de l'enseignement supérieur, après avoir été secrétaire d'État chargé de la réforme de l'État. Et initialement, quand on vient vous chercher pour entrer au gouvernement, les 2 premières années, vous avez été porte-parole du groupe des députés PS. Voilà résumé votre parcours pendant 5 ans. Et ce qui est amusant dans tout cela, en réalité, ce que l'on a surtout oublié, c'est que vous, Thierry Mandon, avaient été le tout premier des frondeurs. À l'époque d'ailleurs, ce n'était pas encore officieusement leur dénomination, mais c'est bel et bien vous qui contestait, dès le début de la mandature, une mesure prise immédiatement par le président. Vous vous en souvenez ?
Oui, très bien, oui.
Tout simplement, vous avez estimé que c'était une erreur de vouloir commencer par supprimer les heures supplémentaires défiscalisées. Alors, vous le faites savoir. Avec un style bien à vous, vous n'hurlez pas forcément très fort, mais l'analyse est fine et les arguments souvent cinglants. En l'occurrence, vous estimez là que le dispositif a beau être sarkozyste, la gauche se perd dans des débats idéologiques qui n'existent pas et elle ferait mieux de se retourner sur le terrain, entendre ce que les gens disent et comprendre ce dont ils ont besoin. La critique, vous en conviendrez, est extrêmement sévère à l'encontre d'un pouvoir qui, à ce moment-là, vient tout juste de se mettre en place.
Et aujourd'hui, Karine, cette proposition est reprise par un candidat, Manuel Valls.
Oui, alors pour autant, ça ne fait pas Thierry Mandon un valsiste. Loin de là, l'ancien maire de Ristorangis, que vous êtes, n'a jamais tellement apprécié la façon de faire de son voisin d'Evry. Une façon de faire que vous jugez trop brutale et trop personnelle. Autrement dit, vous êtes deux élus de l'Essonne, a priori appartenant au même camp, mais le premier vice-président du département, ça c'est vous, a eu bien du mal à partager les mêmes projets que le patron de l'agglomération. Et à dire vrai, il n'est pas si simple de vous situer politiquement parlant. Dans vos jeunes années, vers 30 ans, quand vous décrochez votre premier poste de député, c'est avec Laurent Fabius que vous partagez vos idées. Avant de le délaisser pour rejoindre Martine Aubry, et puis vous êtes subjugué par votre ancien camarade de promo à Sciences Po, Arnaud Montebourg. Vous le soutenez à la première primaire de la gauche, mais vous l'étriez après sa cuvée du redressement quand il sort du gouvernement. Qui trouve grâce à vos yeux aujourd'hui ? À 59 ans, après avoir été deux fois élu à l'Assemblée et nommé deux fois secrétaire d'État, vous apparaissez comme un politique assez esselé.
Un politique, surtout Karine, qui a décidé en juin prochain de ne pas se représenter.
C'est vrai, Thierry Mandon a toujours milité contre le cumul des mandats, en quantité et en durée. Et c'est vrai aussi que vous avez l'intention désormais de vous consacrer au débat d'idées. Ce qui n'est pas tout à fait nouveau pour vous, la gauche depuis longtemps vous considère comme l'un de ses esprits les plus brillants. Maintenant, qu'allez-vous faire de toutes vos réflexions ? Les réserver à un think tank ? Les publier dans une revue ? Une nouvelle revue que vous pourriez envisager de créer ? En tout cas, depuis cette semaine, Thierry Mandon, vous avez déjà accepté d'écrire chaque vendredi chez nos confrères de Libération.
Un politique qui devient journaliste, dans ce sens-là, c'est assez rare, Thierry Mandon.
Non, qui est fasciné par le débat d'idées, qui cherche à y contribuer modestement, mais à un débat d'idées qui doit être ressourcé. Je pense que c'est ça le projet personnel qui m'intéresse. C'est-à-dire que les idées, c'est pas des experts revus, épuisés, ou des gens qui savent tout, mais c'est dans les laboratoires de recherche, au niveau des chercheurs débutants, dans la société. Voilà. Donc un débat d'idées ressourcé et un débat d'idées qui pénètre des couches spontanément. Pénètre pas, c'est ça que j'ai envie de faire dans les années.
Vous allez faire un think tank pour
être... Vous verrez, moi-même, aujourd'hui, j'ai pas tellement le temps restant au gouvernement jusqu'au dernier jour actif. J'ai pas le temps de développer les projets.
Il n'y a pas une suractivité quand même en ce moment au gouvernement.
Ah bah, détrompez-vous. Moi, en tout cas, pour ce qui me concerne, j'ai largement de quoi faire.
Il y a c'est des idées en prise sur la politique que vous voulez faire ou est-ce que vous arrêtez la politique ? Est-ce que vous considérez que vous arrêtez complètement la politique ?
Je pense que le problème de la politique aujourd'hui, qui n'est pas qu'un problème de la politique d'ailleurs, qui est peut-être un problème y compris pour les médias, j'en sais rien, c'est le ressourcement au sens premier du terme. Je pense qu'on a décroché des profondeurs de la société. On ne comprend pas un certain nombre de phénomènes qui se passent sous nos yeux et qui sont plutôt de l'ordre du signaux faibles.
Lesquels, par exemple ?
Il y en a un qui est générique. C'est la notion de puissance publique. La puissance publique telle qu'elle est aujourd'hui matricée en France, mais on pourrait parler de l'étranger, on va parler de la France, elle ne répond plus aux enjeux qui émergent sous nos yeux. Alors, pour plein de choses qui méritent d'être développées, peut-être le ferons-nous. J'imagine que nous le ferons. Voilà. Et que repenser la puissance publique, définir ce qu'est une puissance publique augmentée, c'est non seulement servir le pays, parce que la France, c'est la conviction de la puissance publique, droite et gauche confondues. C'est servir la gauche, parce que la gauche, avec une puissance publique qui est tétanisée, paralysée, en tout cas qui n'a plus l'efficacité qu'elle avait, elle n'existe plus, d'où sa crise d'aujourd'hui. C'est autour de ces sujets-là que j'ai envie de consacrer.
S'il vous plaît, Nathalie Saint-Cricq.
Est-ce que c'est pas au contraire le moment de s'y mettre ? quand Emmanuel Macron émerge, quand il y a Jean-Luc Mélenchon qui a l'air de faire de très bons scores, est-ce que le moment d'aller dans un labo pour étudier in vitro les socialistes, c'est pas au contraire maintenant qu'il faut être là et non pas déserter, sauf si on est complètement dégoûté du Parti Socialiste.
Déserter, alors d'abord, faut quand même dire les choses très simplement. On peut pas reprocher aux hommes politiques de faire des carrières et de n'avoir finalement comme horizon que leur seule carrière politique. Et considérer que quelqu'un qui dit, bah, tiens, moi, j'ai envie de faire les choses autrement dans les années qui viennent, c'est quelqu'un, c'est un renégat, un déserteur.
Non, moi, j'ai pas dit un renégat, j'ai dit simplement est-ce que c'est pas le moment.
Non, vous avez dit déserteur, ce qui est un mot extrêmement précis et qui ne correspond ni à mon
parcours. J'ai dit déserté, pas déserteur. C'est pas la même chose.
Celui qui déserte, je sais pas comment on le qualifie, généralement, c'est déserteur. Moi, j'ai fait 25 ans de vie politique à tous les niveaux. J'ai été maire pendant 17 années, je me suis battu comme un chien. Je me bats aujourd'hui au gouvernement et je considère que le problème de la société française, c'est aujourd'hui le problème, et par rapport à la politique, c'est un problème de combat culturel. Voilà. Il y a des visions qu'il faut peut-être affiner, préciser. Moi, je ne peux pas le faire tout seul, je peux le faire avec des gens, qu'il faut remettre dans les têtes pour rendre possible les grands changements qui s'imposent. Mmh. Et si donc, c'est à ce combat culturel-là que j'ai envie de consacrer l'énergie.
Karine Bécard.
Si le quinquennat s'était passé différemment, peut-être que vous seriez encore dans une politique active, alors que là, effectivement, vous avez envie de vous concentrer sur des idées, parce qu'il y a eu des problèmes, il y a eu des errements, et il va falloir corriger certains tirs.
Je n'en sais rien, mais il y a une part de vérité dans votre remarque. Moi, j'ai travaillé à la simplification, à la réforme de l'État, donc là, j'étais vraiment au poste, même si c'était un secrétariat d'État, j'étais au poste où je pouvais faire des choses, j'en ai fait beaucoup, et j'ai aussi mesuré des impasses. Des impasses qui tiennent pas à la bonne volonté individuelle des décideurs, qu'ils soient politiques ou
administratifs. Mais c'est quoi? C'est un État pétrifié, un État inerte, un État idéologue?
C'est un État qui est mal placé. C'est un État qui est mal placé par rapport à la société.
C'est-à-dire?
Il reste tutélaire. En tout cas, il a cette prétention, il n'y en a plus les moyens. Et je pense que ça ne correspond plus du tout à ce qu'il faut comme positionnement. Donc il reste en position d'autorité, de prétention d'autorité par rapport à la société, alors que pour moi, il doit être, je reprends un concept du 19e siècle, propulsif. C'est-à-dire qu'à la fois, il doit éclairer, donc il a des dimensions de volontarisme, de remettre des perspectives de long terme, de rendre lisible un monde qui l'est de moins en moins, et en même temps, d'être en accompagnement actif de ceux et celles qui, au quotidien, transforment les choses. Et c'est ce passage-là qui me semble aujourd'hui intéressant à conscientiser une puissance publique augmentée. Voilà. Il faut la définir, il faut la faire comprendre, la faire partager pour qu'elle puisse entrer dans
pourquoi
les
actes. Pourquoi vous ne utilisez pas le mot État? C'est très intéressant, vous parlez de puissance publique. Normalement, les socialistes, la gauche, la France, c'est faite sur l'État. Donc ça veut dire que la France ne se fait plus sur l'État, mais c'est quoi la différence entre l'État et la puissance publique?
Ça va un peu plus loin, c'est plus large. La puissance publique, c'est évidemment l'État d'abord, qui doit être repensé dans son rôle, mais c'est plein d'acteurs dans la société qui, si on ne les intègre pas dans ce concept-là, je prends des associations, il y a des associations qui font un travail formidable, qui relèvent vraiment de l'intérêt général et qui, d'une certaine partagent une paternité d'une nouvelle action publique. Et donc, dans cette puissance publique augmentée, il y a évidemment de la place pour d'autres acteurs institutionnels que le seul État, même si le rôle de l'État est central. De ce point de vue-là, mais là aussi, on va y revenir, j'imagine, vous avez prononcé deux noms tout à l'heure. En disant, mais alors, vous baissez la garde au moment où il y a des gens qui veulent faire changer les choses. Vous avez situé Emmanuel Macron, vous avez situé Jean-Luc Mélenchon. Emmanuel Macron, moi, je ne sais pas quel est son projet pour l'État. J'ai plutôt le sentiment qu'il s'inscrit dans le courant dominant de ces dernières années, où moins il y a d'État, et mieux ça marche.
On va en reparler dans quelques instants, Thierry Mandon. Le débat est lancé, il est absolument passionnant. On est ensemble jusqu'à 14h. Amis auditeurs et téléspectateurs, si vous souhaitez poser toutes vos questions à Thierry Mandon, 01 45 24 7000, il y répondra à 13h15.
Question politique, la suite à suivre sur France Inter et sur la chaîne de télévision France Info du canal 27 de la TNT. C'est jusqu'à 14h. L'émission est présentée par Nicolas Demorand et c'est tout de suite sur France Inter.
Retour sur le plateau de Questions politiques, l'émission politique de France Inter, France Info et Le Monde. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Notre invité cette semaine est le secrétaire d'État en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche, Thierry Mandon, que je remercie d'avoir accepté notre invitation. Thierry Mandon répondra à partir de 13h15 à toutes vos questions. Intervenez au 01 45 24 7000 sur franceinter.fr et via Twitter avec le mot-clé Question Paul. À mes côtés, Thierry Mandon, pour vous interroger. interroger Nathalie Saint-Cricq de France Télévisions, Arnaud Leparmentier du Monde, Karine Bécard de France Inter. Rebonjour à tous les trois. Et permettez-moi cette question simple. Pourquoi arrêtez-vous la politique au sens actif et classique du terme?
Oui, parce que j'ai été élu, à l'époque j'étais le plus jeune parlementaire, en 88. À l'Assemblée nationale, on est quasiment en 2018, ça fait 30 ans. Il y a peut-être des plus jeunes et plus dynamiques que moi qui peuvent reprendre le flambeau. Moi, j'ai envie de produire des idées, d'essayer de diffuser des idées, de réancrer la chose publique dans les profondeurs de la société, de pas en faire une affaire d'expert, mais vraiment faire un vrai chantier démocratique. Je pense que la chose publique ne renaîtra que quand elle sera revitalisée.
C'est pas parce que la gauche va subir une Bérézina et que votre circonscription va rebasculer à droite comme elle l'a été pendant des années.
Je devrais vous dire les choses simplement. Perdre des élections, j'ai l'habitude, ça m'est arrivé. J'ai perdu 2 ou 3, je ne sais plus, quand on aime, on compte plus, législatif, donc j'ai pas peur de perdre. C'est pas ça. C'est que je crois qu'il y a un sujet vital aujourd'hui, c'est de changer la façon de regarder un certain nombre de structures essentielles de nos sociétés, à commencer par l'État et la puissance publique.
En fait, vous avez été très déçu parce que vous avez vu.
Non, j'ai pas été déçu. J'ai pris conscience. Au contraire, j'ai pas été déçu. Mais on y reviendra. J'ai pris conscience que les transformations fondamentales, en tout cas celles de ce que j'appelle la puissance publique, aujourd'hui, ne sont pas conscientisées par ceux qui, à gauche, parce que c'est ce qui m'intéresse, ou à droite, prétendent piloter l'État. Et alors, quand j'ai dit cette semaine que les candidats à la présidentielle, dans un petit papier, étaient candidats au suicide politique, je veux dire que si on ne prend pas cette conscience-là, et si on ne fait pas un certain nombre de changements en profondeur, alors on est condamné, le lendemain de l'élection, à voir sa popularité baisser drastiquement et finalement baisser les armes devant des structures, j'allais les appeler superstructures, disons, structures qui seront beaucoup plus fortes que
concrètement,
le
concrètement, qu'est-ce que vous voulez dire exactement c'est qu'on candidat au suicide
on va être concret, premier chantier, la redéfinition de ce que l'État doit faire et de ce que finalement d'autres sont mieux placés que lui pour faire. Ce travail-là, il est essentiel, parce que les moyens sont limités, on est à 56% de dépenses publiques, on va peut-être s'arrêter un jour.
Donc éventuellement des structures privées.
Même si ces 56% s'expliquent parce que les retraites sont publiques en France, enfin bon, on ne va pas rentrer dans le détail. Mais donc, il faut trier.
Donnez-moi un exemple sur quelque chose que l'État ne devrait pas faire et qui pourrait être sous-traité ou abandonné à une autre structure.
Écoutez, moi, je vois, quand je regarde les sommes folles qu'on dépense en matière de formation professionnelle ou en matière de politique du logement, et que je vois les résultats...
2 fois 30 milliards à peu près. Hein.
Oui, de résultats concrets, mais je ne mets pas en cause ce quinquennat. Hein. Là, je parle de structure profonde, de ces budgets colossaux sur les dérives auxquelles on assiste. À Paris, plus personne ne peut habiter. D'ailleurs, dans les grandes villes, plus personne ne peut habiter. Je me dis qu'il y a quand même quelque chose qui cloche. Et je me dis que les formes d'intervention de l'État, subventions qui se traduisent en augmentation de loyer, c'est quand même... Il y a sûrement des choses profondes à réfléchir. Mais il y a dans les laboratoires de recherche de France aujourd'hui, pas dans les experts qu'on convoque sans arrêt sur un peu partout pour leur dire leur pensée, mais des économistes, des micro-économistes, c'est-à-dire des gens qui ne partent pas de la macro, mais qui partent des résultats concrets, qui les interrogent, qui voient comment on peut les changer, plein de choses qui ne trouvent pas d'écho dans la décision publique.
Alors pour dire
chantier, oui. pas seulement les missions de l'État, mais la façon quand on prépare des décisions publiques, d'associer à la fabrique de ces décisions publiques des gens, chercheurs, citoyens ayant une connaissance particulière, en amont à la fabrique de la loi ou à la fabrique de la décision. Il y a plein de chantiers comme ça qui feront renaître l'État, et Dieu sait s'il y a besoin d'État.
Pour dire les choses autrement, Thierry Mandon, au terme de votre carrière politique première partie, en tout cas active comme député-maire, vous prenez acte de la mort du jacobinisme qui est pourtant la structure fondatrice de la République ?
Non, je pense que sur certaines missions, par exemple le régalien, quelques grands objectifs en matière de politique d'éducation, d'enseignement supérieur. Il y a absolument besoin de l'État, y compris central, jacobin. Je vais même plus loin que ça. Combien de temps on va assister à cette ubérisation délirante, à cette apparition de nouveaux serfs, de nouveaux esclaves, d'un certain nombre de lecteurs de l'économiste, sans intervenir de manière centrale, de manière autoritaire? Combien de temps on va accepter de faire travailler des entreprises, vous citiez les GAFA tout à l'heure, qui payent pas d'impôts en France? Mais y
ça,
compris.
C'est, non, mais, non, c'est, mais, c'est, laissez-le donc, finir, laissez-le finir.
Ça veut dire qu'il y a besoin d'autorité centrale. Je pense même, moi, qu'un des problèmes démocratiques majeurs aujourd'hui, c'est que le président de la République, pas celui-là, de manière générale. La fonction présidentielle doit s'adapter au temps nouveau dont je parle. Elle doit remonter d'un étage. Elle doit être garante de cette centralité d'un, trois ou quatre grands chantiers de transformation majeurs.
Karine Bécart.
Et des enjeux qui demeurent. Et en même temps, oui, il y a besoin de décongestionner massivement l'État. Mais massivement l'État. J'ai été maire de Ris-Orangis. Je me rappellerai toute ma vie. J'avais un professeur d'anglais dans un collège qui était absent depuis quelques semaines. Je suis allé au rectorat de Versailles, qui gère la moitié de l'Île-de-France, donc des effectifs que je suis incapable de vous citer, mais absolument considérables, pour voir la personne qui est chargée de gérer ce genre de choses, pour lui dire, écoutez, là, franchement, ça fait quand même six semaines. Bon, non, mais, et je ne l'ai pas trouvé. Je ne l'ai pas trouvé. C'était Brésil. Je sonnais à des forces, ça me disait, c'est la porte d'à côté. Bon, mais il y a quand même là une décongestion du pilotage, entre guillemets, ressources humaines de l'État, qui est possible à imaginer.
Mais vous aviez l'occasion pendant ce quinquennat de le faire, Thierry Mandon. Il y a eu des actes de décentralisation, comme on dit. Si ce n'est que, en tout cas les citoyens, nous n'en avons perçu que la dimension technique, absolument pas la dimension démocratique, ni la dimension de revivification de la vie politique.
Alors, vous avez raison, mais les actes dont vous parlez, prenons la nouvelle organisation territoriale de la République, ils sont tout récents. Ils ont été plébiscités par les élections, contrairement à ce qu'on nous annonçait. C'est-à-dire que les nouveaux conseils régionaux, il n'y a pas eu d'abstention massive. Les gens ne se sont pas désidentifiés à ces espaces-là. Au contraire, ils ont participé massivement. Et troisièmement, il faut qu'ils mettent en place des politiques. Ça a commencé il y a quelques mois, un peu plus, donc ça va venir. Mais je peux vous dire que, tant sur le plan du développement économique que sur le plan de la formation professionnelle, par exemple, que désormais les régions soient en charge et de la création d'emplois, et de l'articulation des politiques de formation professionnelle sur l'emploi, je pense que ça va payer sur le moyen terme.
Monsieur Mandon, vous dénoncez le fait que
Arnaud Le Parmentier a pris la parole et Karine Bécart la prendra donc après.
Mais je reviens sur la formation professionnelle, les collectivités territoriales dont la Cour des comptes a dénoncé l'augmentation des effectifs en dehors des effets de décentralisation. Est-ce que en réalité, la décentralisation, ça n'a pas été quelque chose dont on a dit il faut absolument le faire, on s'aperçoit que ce n'est pas efficace. Est-ce qu'on s'est pas trompé dans le discours qu'on tient depuis 30 ans? Il faut absolument décentraliser.
Le problème, c'est qu'on l'a fait, la décentralisation, c'est typique de ce qu'il faut essayer de faire évoluer. On l'a fait sur des années où, en gros, tous les 5 ans, on crée une couche supplémentaire à qui on donnait des pouvoirs nouveaux. On a commencé. Donc, il y a les communes. On a commencé par faire des communautés d'agglomération. Au passage, en dupliquant parfois un certain nombre de missions parce qu'on ne savait pas trop. Ça faisait un peu de bazar si on disait c'est l'urbanisme maintenant, ce sera les agglos, ce ne sera plus les communes. Donc, voilà. Ensuite, on a fait les métropoles. Puis, il y a toujours les départements dont l'essentiel de l'activité de plus en plus est de gérer la politique sociale, principalement l'ancien RMI, désormais le RSA. Puis maintenant, voilà des grandes régions et on n'y comprend plus rien. C'est pas parce que vous superposez, ajoutez des couches nouvelles que vous décentralisez bien. Et donc là, c'est typiquement une action puissamment décentralisée, elle doit être beaucoup plus lisible. Bon, il faut trois couches, quoi. En Allemagne, c'est simple, voilà, vous avez la région, vous avez l'État qui a des fonctions beaucoup plus limitées qu'en France, contrairement à ce qu'on raconte, vous qui connaissez bien l'Allemagne, on n'arrête pas de citer l'Allemagne, mais enfin l'Allemagne c'est d'abord un État fédéral, c'est-à-dire c'est une somme de politique régionale dans une vision entre guillemets partagée de ce que doit être l'État allemand, et puis vous avez autour des villes des formes différentes d'organisation. Il y a trois niveaux et ça fonctionne très bien.
Karine Bécart, puis Nathalie Saint-Cricq.
Non, en vous écoutant, voilà, il faut réfléchir beaucoup, tout nettoyer, tout décrasser peut-être même. En même temps, c'est amusant parce que vous dites, voilà, il faut qu'on s'adapte au monde nouveau dans lequel on est. Et en même temps, si je relis le papier que vous avez écrit vendredi dans Libération, vous dites, voilà, président, être candidat à l'élection présidentielle, candidat au suicide, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réappliquer la solution que vous donnez, réappliquer strictement, finalement, la Constitution de 1958. C'est-à-dire qu'un président préside et qu'un premier ministre gouverne. Donc on n'a pas le sentiment, finalement, que vous posez des beaux diagnostics, mais c'est quoi, en fait, vos solutions? Finalement, là, on est un peu déçus, surtout pour un défenseur de la 6e République.
Vous êtes revenu à la présidentielle, donc je vais vous dire très précisément. Ouais. Je pense que le président aujourd'hui, celui-là, le précédent, les suivants, sont condamnés à courir derrière une actualité qui ira plus vite que lui ou qu'eux. Et ce faisant, rate une des fonctions principales qui est celui qui... La raison d'être de la présidence de la République, c'est d'être un point de repère. Quelqu'un qui, déconnecté de l'actualité, de la frénésie de l'actualité, peut penser le temps long. Et donc moi, je pense qu'il faut remettre le président à l'étage, sur lequel il doit être. Donc le débarrasser du quotidien, c'est-à-dire le régalien, la place de la France dans le monde, dans l'Europe, bien sûr les questions de sécurité, et trois ou quatre grands chantiers qu'il croit vital pour l'État.
On dira il est absent. On dira il est distant. On dira.
Mais vous verrez ce que vous direz. Commencez pas à faire les procès par anticipation. Moi je vous dis.
Été instruits hein, quand même.
Oui, mais non, mais on verra au moment où on est. Le président qui se fait lire sur je vais transformer la puissance publique. Premièrement, puis deuxièmement, il peut choisir d'autres chantiers. Sur trois grands chantiers, ce président-là, il deviendra lisible et surtout, il deviendra efficace parce que concentré. Je vais vous expliquer un exemple que je tire de ce quinquennat. Le président a eu l'intuition forte de la nécessité de simplifier l'administration française et les règles. Et j'ai été chargé de cela pendant une année, et si vous avez une fiche de paye qui va être simplifiée à la fin du mois de janvier, si c'est issu des chantiers, je ne rentre pas dans les détails, il y en a eu beaucoup de réalisations, c'est parce qu'il a eu cette intuition et parce qu'il m'a soutenu. Mais en même temps, moi concrètement, avec un comparse, Guillaume Poitrinal à l'époque, j'ai passé une nuit, je me rappellerai toujours de cet exercice-là, une nuit à Bercy, pour essayer de faire comprendre à l'administration de Bercy qu'un document qui s'appelle la DAS 2, qui est un document que remplissent toutes les entreprises de France, était parfaitement inutile, qu'il fallait le supprimer, que toutes les informations qu'il y avait dans ce document, ils pouvaient les trouver autrement, que s'il fallait contrôler les entreprises, il n'y avait pas besoin de ça parce qu'ils ne s'en servaient pas. J'avais décortiqué avant très précisément les choses. Voilà. Et là, je me suis rendu compte de quoi ? Je me suis rendu compte qu'un chantier de simplification porté, conçu, voulu par le président de la République, porté par mes modestes épaules, mais qui n'est pas puissamment partagé comme une priorité de tout le gouvernement, y compris par la haute administration française, c'est un chantier qui produira le dixième de ce qu'il peut produire.
Mais pour revenir sur le président, il y a une envie de revenir à finalement ce qui a fonctionné, pas forcément d'inventer autre chose. Et c'est des questions de tempérament, au final. Un Sarkozy, un Hollande, dans le tempérament, ils ont envie de mettre les mains dans le cambouis. Politique fiction, François Fillon l'emporte, quand on voit le tempérament...
Alors Fillon, d'abord son programme est à contre-société, d'ailleurs il s'en rend compte parce que je ne changerai pas, je ne vais pas bouger, tout ça prépare les changements, il est à contre-société, son programme économique et social, la France veut une puissance publique, elle ne veut pas moins d'État, elle ne veut pas qu'en gros il y ait plus de régulation libérée, elle veut l'inverse, c'est d'ailleurs pas la France, c'est un mouvement de l'opinion dans le monde entier, en Angleterre, aux États-Unis, partout, les gens veulent que la puissance publique d'une certaine manière, retrouve une capacité d'action qu'elle n'a pas eu. Première raison pour laquelle il est mort. Deuxièmement, il est extraordinaire, François Fillon. Son programme, c'est simple. J'arrive à l'Élysée, moi je sais ce qu'il faut faire. Donc taisez-vous, les copains, là, vous êtes... J'ai été désigné, vous vous taisez, c'est ce qu'il a expliqué à ces gens. Et je vais le faire, et d'ailleurs je vais vous mettre en vacances, vous, nouvelle assemblée élue, puisque vous allez me donner la possibilité de faire des ordonnances. Et comme je suis intelligent, appuyé par quelques experts bien reconnus, je vais vous bâtir quelques ordonnances et en...
Allez, qui seront même écrites avant, 100, je crois. Mais...
Qui seront peut-être écrites avant. En 100 jours, je vais régler les problèmes pendant, en France, depuis plusieurs décennies. Mais ça n'existe pas. Mais c'est même pas une illusion. Je ne comprends pas comment François Fillon, qui par ailleurs est un homme de conviction...
Mais vous-même, vous dites que les procédures...
De conviction. On peut pas lui enlever ça. Intelligent et qui a l'expérience du pouvoir, peut imaginer cette fable possible.
Finalement, Thierry Mandon, quand on vous écoute, on se dit finalement que le clivage droite-gauche il est largement dépassé. Parce que vous dites des choses qu'Alain Madelin a pu dire il y a très longtemps, que NKM a pu dire pendant la campagne, que certaines personnes de droite ont pu dire, que Macron peut dire aussi. Finalement, c'est dire qu'il faut décentraliser plus, rapprocher les citoyens de la prise de décision. Par exemple, sur l'autonomie des établissements publics, des lycées, d'un certain nombre de collèges, c'est pas quelque chose qui est ni de droite ni de gauche. Pourquoi vous acceptez encore ce clivage-là en disant que vous inscrivez...
Mais pour une raison qui est tout à fait cohérente avec ce que je dis, c'est que je pense que, et la crise de la gauche en témoigne, je pense qu'il n'y a pas de gauche possible. La différence entre la gauche et la droite, c'est la place de la puissance publique. C'est pas compliqué, et de tout ce qu'il y a derrière, les valeurs de la puissance publique, le combat contre pour moins d'inégalités, pour plus d'égalité, enfin, là aussi, on va rester simple. La différence entre la droite et la gauche, c'est la place de la puissance publique.
Le gaullisme était de gauche, donc.
Le gaullisme, tout le monde, tous les observateurs ont du mal à dire que le gaullisme était une idéologie totalement de droite.
Est-ce que vous êtes pas au-delà de ça, du clivage, ou est-ce que vous êtes encore...
Et la crise de la gauche, justement, c'est, à mon sentiment, les difficultés que nous avons aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas perçu en quoi redonner à la puissance publique et sa place et une efficacité qu'elle a perdue, redonner, c'est le cœur d'un programme de gauche. Il ne s'agit pas, quand on est de gauche, d'avoir une bonne idée de plus d'un dispositif social qui est par ailleurs coûteux, de plus, d'une nécessité de remettre de l'argent dans une machine.
Oui, sur l'autonomie des établissements scolaires, par exemple, pour associer
je vais prendre votre
les proviseurs, les profs, mais les parents, ça peut être une bonne idée, comme je disais tout à l'heure.
Je vais reprendre votre exemple. Mais ce que je veux dire, c'est que la différence entre la droite et la gauche, c'est que pour les uns, c'est essentiel la puissance publique qu'il faut réinventer, parce que s'il n'y a pas de puissance publique, il n'y a pas de gauche. Qu'à droite, il y a y compris des théories politiques multiséculaires, et il y a des idées, des gens qui disent finalement, le problème c'est qu'il y a bien trop d'État, on peut faire autrement, il y a besoin de l'État. Prenons l'autonomie, ce que vous appelez l'autonomie. Mais l'autonomie, ça dépend sur quoi elle porte. Franchement, la gestion d'un prof remplaçant, il n'y a pas besoin que ce soit décidé rue de Grenelle. Même au niveau de rectorats qui sont énormes, ça doit pouvoir être... Mais en revanche, ce qui a besoin d'être décidé rue de Grenelle, c'est que tous les enfants de France aient les mêmes possibilités d'accéder à l'école, en gros les mêmes contenus pédagogiques, passent les mêmes examens qu'ils aient une valeur nationale, que le baccalauréat de l'Académie de Lyon et le baccalauréat de l'Académie de Créteil, c'est soit le même baccalauréat. Ça, pour le coup, si l'autonomie, comme parfois c'est le cas à droite, je peux vous citer les universités, par exemple, qui en gros disent il pourrait y avoir une licence de droit ici, et puis une licence de droit là, et ce ne seraient pas les mêmes, parce que bah, s'il y a une bonne université, une mauvaise université. Voilà. Ça, pour le coup, moi, je ne suis pas d'accord. Et là, il y a une différence entre la gauche et la droite. Donc, l'autonomie, c'est un mot valise. Quand on regarde de près sur quoi elle doit porter, pour le coup, on retrouve les différences
entre la gauche et la droite. Pour que les choses soient bien claires, je vous repose la question différemment que vous posez Karine Bécart. Vous êtes pour une 5e République remise d'équerre ou pour une 6e République, Thierry Mandon? Théorique intéressant, oui, quand
vous avez,
même.
Non, vous avez raison. Vous avez raison, mais on va pas non plus passer des heures sur le sexe des anges. Si la cinquième,
vous êtes là pour ça.
La Constitution,
dépend comment on définit la cinquième. Si la cinquième République, c'est un système d'élection du président au suffrage universel, je suis cinquiémiste. Moi, je crois qu'il faut un président élu au suffrage universel pour des raisons anthropologiques. C'est que la France, elle a toujours eu, quoi qu'on en dise, y compris qu'il y a eu quelques flottements pendant des années au moment de la Révolution française, mais enfin, c'est quand même terminé par le bonapartisme. Donc, elle a besoin d'un référent, c'est dans ses gènes. Donc, je suis cinquiémiste. S'il s'agit de dire, c'est plus au niveau central entre le gouvernement, les hautes administrations françaises qui définissent ce qui est bon pour la France et puis le reste du monde suit, je suis sixiémiste. Voilà. Donc, cinquième et demi, appelez-la comme vous voulez. En tout cas, je suis pour un pouvoir central repositionné sur ce sur quoi il est essentiel et des espaces qui s'ouvrent pour la société. Tant ces institutions, associations, que les différents niveaux de prise de décision, décentralisation.
Allez, on va parler de la jeunesse.
Question politique sur France Inter.
Et toutes les semaines, nous accueillons un reporter de la rédaction de France Inter, où cette semaine du Monde nous rejoint Isabelle Ray-Lefèvre, Thierry Mandon. Bonjour Isabelle, installez-vous. Vous allez nous parler, Isabelle, de l'un des engagements de François Hollande en 2012, priorité à la jeunesse.
Eh oui, vous êtes un peu le ministre des jeunes, des étudiants. Ils n'ont pas été oubliés pendant le quinquennat de François Hollande, les étudiants. Il y a eu la revalorisation des bourses, il y a un programme de 40 000 logements qui est bien engagé, même s'il n'est pas tout à fait à l'heure. Par contre, les autres, les jeunes chômeurs ou travailleurs qui sont durement frappés par la pauvreté, l'Observatoire des inégalités disait qu'un jeune sur 10 est pauvre, c'est-à-dire qu'il vit avec moins de 800 euros par mois. Alors certes, 1er janvier 2017, il y a eu la garantie jeune qui s'est généralisée, une sorte de RSA à 461 euros par mois pour ceux qui ne sont ni en emploi ni en formation. Mais c'est très tardif et leur grande difficulté, c'est de se loger. Je rencontrais l'autre jour un jeune ouvrier de 25 ans qui me disait « Moi, à Niort, j'avais un logement pas trop cher, mais j'avais pas de boulot. J'en ai trouvé un à La Rochelle, pas trop mal payé, dans les chantiers maritimes, 1200 euros, mais j'ai pas de logement. J'ai pas priorité pour les HLM, je n'ai pas droit à la location logement car je gagne trop. » Je gagne pas assez pour avoir un logement privé. Donc, il est retourné chez ses parents, lui avec sa compagne, il déplie son petit canapé, lit chaque soir. La Fondation Abbé Pierre, l'année dernière, avait d'ailleurs dit qu'elle observait ses tanguis avec presque 1,5 million de jeunes qui sont bloqués dans leur projet de décohabiter. Mais le scénario est quand même beaucoup moins amusant que le film de Châtillies. Et donc, ce qui est paradoxal, c'est que dans les propositions de François Hollande, on aurait pu aider ce jeune ouvrier avec l'encadrement des loyers, avec la garantie universelle pour la location, où l'État se porte garant. Elles ont même été votées, ces mesures, dans la loi Allure de Cécile Duflot, mais abandonnées en route. Alors, pourquoi cet abandon ? Et il serait même encore temps de les mettre en œuvre, et puis pourquoi pas un grand programme de logement pour les jeunes.
Thierry Mandon vous répond, Isabelle.
Simplement, si j'ai connaissance précise de ces sujets-là, ce qui n'est pas tout à fait le cas, mais la GUL, la garantie universelle des loyers, elle n'a pas été abandonnée, elle est en place, elle monte en régime, doucement. Enfin bon,
elle n'est pas universelle.
Elle n'est pas universelle, elle est ciblée sur un certain nombre de catégories, mais enfin, ça existe. Mais pour des raisons qui sont que... Vous voyez, dans votre question, il y a la réponse. Vous dites, pourquoi pas un programme de logement pour les jeunes ? Et vous avez raison, il y a une catégorie qui a des difficultés réelles pour se loger, qui sont les jeunes. Mais c'est un problème de structure, la question du logement. Ça ne concerne pas que les jeunes, ça concerne tout le monde. Les actifs à Paris qui doivent accepter docilement des emplois, y compris ce que leur dit leur patron, parce qu'ils ont un loyer délirant à payer chaque mois, ils sont aussi victimes du logement. Et le problème de structure, c'est quoi ? C'est premièrement qu'on refuse d'intervenir sur le foncier. C'est quand même pas normal que dans des villes, aujourd'hui, les loyers atteignent ces prix-là parce que les terrains, l'inflation, parce qu'il y a des gens qui s'en mettent plein les poches.
Tous les moyens pour intervenir.
Non, ils n'ont pas. Regardez, non, mais là c'est pas une question de collectivité. Excusez-moi, en Allemagne c'est pas les collectivités qui font l'intervention foncière qui fait qu'à Berlin vous pouvez vous loger à des prix qui n'ont rien à voir avec ceux de Paris. À Bruxelles, en Belgique, c'est pas les collectivités, c'est des politiques d'État. Il y a des gens qui sur la spéculation foncière s'en mettent plein les poches, font monter à des niveaux absolument indécents les loyers, et c'est à eux qu'il faut s'attaquer. Deuxièmement, il y a la question des aides au logement qui sont à la fois très ciblées sur un certain nombre de catégories et répercutées, toutes les études le montrent, quasi intégralement en augmentation de loyers, donc qui sont comme si on arrosait le désert. Et donc c'est autant les structures qu'il faut toucher de la politique du logement, dont je ne suis pas un expert. Enfin, il y a sûrement des choses à...
Ça veut dire quoi, intervenir sur le foncier ? Excusez-moi, à Paris, il n'y a pas de place ?
C'est ça
qui est dit. Ben, il est dit si les loyers montent, c'est parce qu'il y a trop de monde qui veut habiter à Paris. Donc il faut quoi faire des tours.
Non, c'est pas. Mais il y a plein de monde qui veut habiter à Berlin. Il y a plein de monde qui veut habiter partout.
Berlin, c'est quand même
partout.
Une
ville large. Alors d'abord on voit bien que c'est des problèmes absolument là aussi structurels. C'est pourquoi tout le monde veut habiter à Paris. C'est qu'à Paris, vous avez indépendamment des services publics qui fonctionnent bien, vous avez des transports absolument partout. Donc c'est la vie. Il y a de la puissance publique qui fonctionne en banlieue, ils se rangissent, 25 km de Paris. Moi, j'ai une ligne RER, et en bas de chez moi, il y a une gare RER, il y a deux RER par demi-heure. Par demi-heure. Donc, insuffisance de services publics. C'est donc, si tout le monde veut habiter à Paris, c'est qu'il y a des causes structurelles. Mmh. On ne va pas tout changer du jour au lendemain. Mais ce que je veux vous dire, et je reviens à la question du logement, c'est que quand on raisonne sur l'intervention de l'État, on accepte aujourd'hui trop docilement, et vous voyez, culturellement, le combat, il est culturel, parce que les gens n'ont même plus conscience de ça. On accepte trop docilement des choses qui peuvent évoluer.
Isabelle ?
L'encadrement des loyers, c'était une façon de réguler les prix.
Mais ça s'applique à Paris. On voit le résultat, ça ne change rien. Un peu pour quelques familles, mais enfin, excusez-moi, ça ne change rien.
Mais parce qu'on l'a fait en demi-mesure. Et puis, vous parliez du rôle de l'État tout à l'heure. L'aménagement du territoire, on voit que tout se concentre dans les grandes villes. Et donc, forcément, les pollutions, les prix, l'inflation des prix. Là aussi, il y a eu... pas beaucoup de politiques d'aménagement du territoire, si ce n'est de fermer des services publics beaucoup d'endroits.
Bon, Thierry Mandon. Si on raisonne à choses égales par elles-mêmes, c'est-à-dire dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui, d'abord, ce n'est pas vrai qu'il n'y ait pas eu beaucoup de choses faites. On a ouvert un bon millier de maisons de services publics qui ont redonné, grâce à l'hébergement à la poste,
des services publics du quotidien à beaucoup de Français. On a fait un certain nombre d'efforts sur la couverture, enfin en tout cas en théorie, sur la couverture du territoire en fibre optique et en moyen justement de rendre égales les chances de développement, ce qui est un vrai sujet.
Mais à vous entendre, c'est pas grand-chose, hein, Thierry Mandon.
Non, mais c'est pas grand-chose.
Non, mais on a fermé des hôpitaux, des palais de justice, et quand on ferme.
Ça, c'est pas d'aujourd'hui.
C'est pas d'aujourd'hui.
C'est un redéploiement de l'État sur les centres.
Quand on ferme ces services publics, on prive l'emploi privé aussi. C'est-à-dire que quand vous fermez un tribunal, mais il y a moins d'avocats. Quand vous fermez des hôpitaux, il y a moins de médecins.
Eh bien, je suis absolument ravi. Vous êtes en train de dire exactement ce que je crois. C'est que le repli, le rétrécissement progressif de la sphère publique, enfin de l'État, explique la crise et démocratique et politique et sociale que l'on vit aujourd'hui. Et que la question des services publics, alors on peut pas, il y a des équilibres budgétaires, mais remettre des services publics de manière beaucoup plus dense, qui fonctionnent mieux en dehors des très grandes métropoles, où parfois, je vais pas dire qu'il y en a trop, mais presque, à Paris, se déplacer, c'est pas un problème, sauf en voiture. Donc sinon, des services publics, il y en a quand même un nombre considérable. C'est un vrai sujet. Et pourquoi on touche pas cela? C'est pas parce que les gouvernants n'ont pas conscience de ça, c'est pas parce qu'ils ont pas envie de le changer, c'est parce que pour faire ces changements-là, il faut qu'ils soient conscientisés collectivement par la société pour rendre la réforme possible. Et c'est ce qui manque aujourd'hui, cette conscience partagée des dysfonctionnements majeurs du système dans lequel on est.
On a une heure encore pour y réfléchir et en débattre avec vous, Thierry Mandon. Amis auditeurs et téléspectateurs, 01 45 24 7000, si vous voulez interroger directement notre invité aujourd'hui. Vous pouvez également passer par le site de France Inter, franceinter.fr. Et si vous êtes fondu de réseaux sociaux, Twitter, avec le mot-clé « question Paul ». Merci Isabelle Ray-Lefebvre d'avoir été avec nous aujourd'hui. Retour sur le plateau de Questions politiques, l'émission politique de France Inter, France Info et Le Monde. Notre invité, vous le savez, cette semaine, est le secrétaire d'État en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche, Thierry Mandon, qui va répondre maintenant à toutes vos questions. Pour intervenir, trois moyens, 01 45 24 7000, le standard, franceinter.fr si vous préférez, le courrier électronique, Twitter avec le mot-clé Questions Paul. À mes côtés, toujours, Nathalie Saint-Cricq, Arnaud Leparmentier, et Karine Bécard au standard. C'est David qui nous appelle de Paris. Bonjour David.
Bonjour.
Bienvenue.
Bonjour, c'est Thierry Mandon.
Bonjour monsieur.
Voilà, c'est une question, je pense, relativement simple à vous poser. Vous avez parlé de Macron, monsieur Macron, tout à l'heure. Et vous aviez dit, je vous cite à peu près de mémoire, qu'il était pour moins d'intervention de l'État. Alors, vous savez, après l'élection de la première élection de Ronald Reagan, il avait dit the state. It's not the solution, the state is a problem. L'État n'est pas la solution, l'État est le problème. Vous vous rappelez de cette...
Oui. Alors la philosophie d'Emmanuel Macron là,
c'est que Reagan, bon, on peut pas dire qu'il était de gauche, hein. C'est quelqu'un de très conservateur, même côté très réactionnaire. Est-ce que ça dénote pas un peu quand même, parce que Macron, il essaie de prétendre qu'il est ni de gauche ni de droite. C'est ça un peu qui m'agace, disons, on va dire, avec Macron, parce qu'il est un peu comme une anguille, il essaie d'être monsieur l'insaisissable. Or, en fait, il a bien une position, quelque part.
Alors, on va poser la question.
Mélenchon, mais au moins, lui, il se pose comme homme franchement à gauche, même s'il peut avoir des prises de position parfois agaçantes.
Bien reçu, David. On va répercuter la question à Thierry Mandon, qui vous écoutait. Alors, ça démarrait sur l'État, Ronald Reagan, Emmanuel Macron. L'État n'est pas la solution, c'est le problème. Qu'en pensez-vous, donc, Thierry Mandon?
C'est un peu tôt pour connaître la doctrine précise d'Emmanuel Macron. Hein. Je crois que c'est jusqu'au mois de mai, chacun pourra le juger. Moi, j'ai trois sujets, par exemple, qui me viennent à l'esprit quand je réfléchis au rapport à l'État de quelqu'un comme Emmanuel Macron. Premièrement, la question des, entre guillemets, ressources humaines. L'État, c'est des salariés et d'abord des cadres supérieurs. Est-ce qu'il considère qu'il faut diversifier l'élite administrative du pays? Moi, j'en suis absolument convaincu. Je pense même que c'est un des premiers chantiers. C'est-à-dire que tout le monde soit énarque ou polytechnicien dans les postes de décision de l'État français, c'est une catastrophe. Non pas que ces gens ne soient pas intelligents, ils le sont, habiles, ils le sont, mais ils sont persuadés qu'ils ont raison, en tout, alors que les cadres supérieurs aujourd'hui doivent d'abord se dire où sont ceux et celles qui peuvent m'aider à prendre les bonnes décisions dans les laboratoires de recherche, dans la société. Donc ça, je ne connais pas. Et j'ai plutôt des craintes qu'ils gouvernent appuyés sur les mêmes experts qu'on a toujours vus et qui ne diversifient pas. Deuxièmement, l'État, il produit des normes. L'État, c'est, ça a beaucoup de missions. Il produit des normes, par exemple, il régule le commerce international. Est-ce qu'il est pour des accords de commerce international, entre guillemets, sans condition? Ou est-ce qu'il est prêt à dire, suggestion que fait Thomas Piketty, qui sur ce point-là a absolument raison, il n'y aura plus d'accord en matière de commerce international s'il n'y a pas des préalables en matière climatique et des préalables en matière de transparence fiscale. Si des accords de commerce contribuent à aggraver la crise climatique ou contribuent à faire en sorte que les entreprises qui en profitent ne payent pas d'impôts, il n'y a pas d'accord de commerce. Je ne connais pas sa doctrine et je pourrais développer. Donc je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas. J'ai plutôt la crainte qu'il appartienne à une vision plus libérale des choses qu'une vision de puissance publique augmentée, mais peut-être que c'est un procès d'intention. Les Français ont l'occasion de jurer
sur les, ressources humaines, malgré tout, c'est le candidat pour l'instant qui présente une équipe peut-être la plus diversifiée tout de même. Il y a pas forcément des énarques. Il vient de recruter cette semaine Pisani Ferry, Laurence Heim, une journaliste. Ça part un peu dans tous les sens. L'impression que ça nous donne peut-être, mais en tout cas, il y a une diversité de profils.
Moi, j'ai plutôt le sentiment inverse. Je ne juge pas ces équipes, d'ailleurs, je ne vais pas le faire, je m'en fiche. Mais c'est une affirmation très importante. Parce que ça, c'est un des chantiers majeurs pour l'État. Mmh. Voilà. De dire aux hauts fonctionnaires aujourd'hui, qui sont en poste aujourd'hui, c'est très bien, mais il y a toute une partie de la société qui a des savoirs, des compétences énormes. Vous prenez n'importe quel docteur en sciences sociales et humaines en France aujourd'hui, ou en mathématiques pour parler d'intelligence artificielle. Ces gens-là doivent être dans les postes de commandement de l'État français comme vous. Le jour où il dit ça, je suis rassuré.
Faut supprimer l'ENA. Supprime l'ENA.
Non, je pense que l'ENA, il n'y a pas à supprimer l'ENA, mais l'ENA est repensé complètement l'ENA. D'ailleurs, je vais le faire début février, je vais proposer au président de la République, au Premier ministre, quelque chose qui est vraiment un changement profond. Faut réfléchir. Quelles sont les compétences absolument indispensables au cadre supérieur d'État dans les années qui viennent?
Arnaud, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous allez proposer précisément? Dites-le.
Moi, dans l'idéal, c'est que c'est une grande université, l'ENA. C'est-à-dire qu'il y a de la recherche. On apprend à rechercher. Pourquoi on apprend à rechercher? Parce que la recherche, c'est l'esprit critique. Et que les dirigeants du pays doivent être persuadés qu'ils n'ont pas la science infuse, mais que, parce qu'il croit à l'esprit critique, la critique est recevable, et il est même utile d'aller regarder avant de décider ce que d'autres que vous, ou ceux qui vous ressemblent, disent. Donc voilà, j'ai fait le tour du monde, c'est un peu prétentieux, j'ai fait le tour d'un certain nombre de pays, je suis allé aux États-Unis encore peu de temps étudier très précisément la Kennedy School, et donc les propositions seront issues de ce voyage-là, avec une deuxième qui est toute bête, mais je préfère vous la dire aujourd'hui aussi, parce qu'il est important, c'est pas normal qu'en France, quelqu'un qui sort de l'ENA 25 ans à peu près, soit jamais plus formé de sa vie. Aux États-Unis, quand on nomme un cadre supérieur dans l'administration, pendant 6 mois, avant d'entrer en poste, après avoir été nommé avant d'entrer en poste, hop, ils retournent à l'école. Et c'est ce qui fait qu'ils peuvent parler de ce qu'est l'intelligence artificielle, de la façon dont ça va révolutionner les politiques publiques dans les années qui viennent. Parce qu'ils ont cet apprentissage.
Moi, Monsieur Mandon, Arnaud, le parmentier est très en retard sur son temps de parole.
Non, c'est pas ça. Mais quand on parle, il ne faut pas diriger par l'ENA. Quand on voit un quinquennat qui s'achève, qui était dirigé par la promotion Voltaire, tous les gens de la même promotion, François Hollande, Ségolène Royal, Jean-Pierre Jouyet, Michel Sapin, c'est quand même pas extraordinaire. C'est pas un peu l'hôpital qui se fout de la charité, excusez-moi, d'avoir cette intervention en fin de quinquennat. Nulle part au monde, on aurait pu avoir 5 copains de promo qui prennent tous les postes de l'État.
Non, mais alors, vous prenez ce qui vous arrange, parce que moi, je vais vous faire si vous êtes soucieux, vous qui êtes soucieux de diagnostics vérité et précis, les 3 premiers ministres, est-ce qu'il y en a un qui a fait l'ENA de ce quinquennat?
Non.
Alors, donc votre raisonnement, il est spécieux, vous prenez ce qui vous arrange. Il y en a aucun qui a fait l'ENA, donc c'est pas ça le sujet. Deuxièmement, je suis pas venu ici pour me flageller. Moi, il y a plein de choses dans ce quinquennat dont je me réjouis.
Je suis
venu ici pour vous dire ce qui me semble vital comme sujet pour le pays, qui est la transformation de la puissance publique, et que là-dedans, il y a un sujet de ressources humaines.
Et sur la primaire, vous êtes plus proche de qui finalement? Parce que là, on parle
ça,
de rien.
C'est
quand même, il y a un débat ce soir, il y a un vote dimanche prochain, donc on peut faire comme si ça n'existait pas. Vous n'allez pas nous dire pour qui vous êtes. Vous avez voté, on le sait déjà. Mais est-ce qu'il y a un.
Moi aussi, ça m'intéresse parce que.
Moi, je ne sais pas.
Parce qu'à l'heure où je
vous parle,
on sait déjà que vous n'allez pas nous le dire. C'était ça que je voulais.
D'accord.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, philosophiquement, parce qu'on n'est quand même pas au milieu de rien, entre Montebourg, ou Manuel Valls, est-ce qu'il y a quelqu'un, je ne parle pas de Sylvia Pinel, est-ce qu'il y a quelqu'un qui, dans sa démarche, son approche, se rapprocherait le plus possible de ce que vous voulez initier?
Thierry Mandon.
Le premier débat n'a pas permis de le montrer, c'est un sujet qui n'a pas été évoqué.
Enfin, vous les connaissez quand même. Hein.
Non, mais je les connais, mais enfin, on tire pas des gens, les gens ils progressent, à l'épreuve du pouvoir ils apprennent des choses, ils se rendent compte des blocages, et donc ils évoluent dans leur parcours. Donc le premier débat n'a pas permis de le montrer, et le deuxième, je vais voir ce soir, je suis un tout petit peu surpris d'une chose, que je tiens à souligner, c'est que des deux domaines absolument majeurs, compris par rapport au sujet dont on parle là, comme la recherche, comme l'utilité absolue de relancer l'effort de recherche du pays et d'articuler cet effort de recherche à la définition des politiques publiques, tout ça, pour l'instant, n'a pas été plus évoqué par le premier débat à gauche que ça ne l'avait été au moment du débat des primaires à droite. Donc je suis en attente très attentive des deux prochains débats pour pouvoir me déterminer.
Yann, bonjour, vous nous appelez de Bretagne, soyez le bienvenu sur France Inter, France Info, le site du Monde, vous êtes partout, on vous écoute.
Oui, je vous remercie de prendre ma question. Voilà, il y a deux aspects. D'abord, une remarque, Monsieur Mandon, tout à l'heure, a parlé du fait qu'à Ris-Orangis, il y avait des RER tous les 15 minutes. Ici, en Bretagne, il y a des villes de plusieurs milliers d'habitants où il y a zéro transport public dans la semaine. Voilà, ça, c'était pour la remarque. La question, maintenant, donc, elle concerne le revenu universel et la question plus large, à mon avis, d'avoir une vision quand on se présente aux élections qui soit projetable dans l'avenir, qui prévienne ce qui va se passer. Il me semble que le capitalisme moderne, indépendamment de manger des emplois par le fait de la concurrence et de la compétitivité, va également en manger à peu près 50% dans les 20 années à venir via la robotique et Internet. Donc ma question par rapport à ça, quelle est la position de Monsieur Mandon concernant le revenu universel et d'autre part la baisse massive du temps de travail?
Voilà, merci beaucoup pour cette double question, Yann. Alors, sur le revenu universel.
Moi, je n'y suis pas favorable pour des raisons qui tiennent au diagnostic porté par ceux qui, aujourd'hui en France, défendent le revenu universel. Des accords de diagnostic, je vais y venir très rapidement. Et pour des raisons qui tiennent à une sorte de fatalité qui voudrait qu'il n'y ait plus assez de travail pour tout le monde. Et donc, finalement, il faut en gros aider... sous prétexte d'aider tout le monde, aider ceux qui ont peu de qualifications parce qu'ils sont condamnés, et laisser les autres s'enrichir puisque c'est eux qui feront vivre l'économie. Le diagnostic, c'est aujourd'hui un débat très ouvert qu'il faut suivre avec beaucoup d'attention, de savoir quel est l'effet de la révolution technologique sur l'évolution de l'emploi. Très ouvert, il y a des polémiques tout à fait passionnantes aux États-Unis, en Angleterre, des études monographiques très précises qui disent tout et le contraire de
voilà,
tout.
Voilà, les chercheurs et les économistes sérieux disent qu'ils ne savent pas.
Exactement.
Ce qui est tout à fait sain intellectuellement.
Et donc, voilà, et plutôt que de prétendre savoir à leur place, j'ai plutôt le tendance à dire que rien n'est ouvert et que donc abandonner des matrice de systèmes sociaux tels qu'elles existent aujourd'hui, sous prétexte que c'est terminé l'emploi et que donc il faut s'y prendre autrement, ça me semble précipité. Ça ne veut pas dire que ce soit un débat secondaire, ça semble précipité.
L'ubérisation n'est pas inéluctable, c'est ça que vous dites.
Mais l'ubérisation, on ne sait pas s'il n'y a pas ce qu'on appelle en économie de l'économie de déversement, c'est-à-dire finalement les emplois qui vont être détruits ici vont être créés autrement ailleurs. Donc prudence sur le diagnostic, enfin désaccord sur le diagnostic. Deuxièmement, moi, je crois que le revenu universel, ça ouvre la porte en grand aux politiques libérales. Par exemple, il y a une question toute simple à poser à ceux qui, de bonne foi, et à qui je ne jette pas la pierre, défendent le revenu universel. Qu'est-ce qu'on fait du SMIC?
Ah bah, il y a un problème. Si on verse 700
euros... Ah bah voilà,
euros...
au Parlement.
Non,
voilà.
Non, mais si on verse 700 euros de revenu universel à chaque personne, comment imaginer, excusez-moi, je vous pose la question, qu'on va continuer de verser en plus 1200 euros
voilà.
De SMIC, donc on arrive à 1900
donc
euros.
Vous arrivez...
On n'a pas 1900 euros par personne
d'accord.
De PIB.
Donc vous avez répondu à ma première crainte, c'est que ce soit un outil de destruction du SMIC. Et j'en ai une deuxième. Un employeur, qui sait que vous touchez 700 ou 800 euros? Pour quelle raison il va vous payer beaucoup plus?
Donc, est-ce que c'est pas une, ce qu'on appelle en économie une trappe à bas salaire? Est-ce que c'est pas une manière artificielle de faire baisser le niveau des salaires, en tout cas les salaires payés par l'entreprise? Et je pense que ces deux arguments-là, là aussi, je fais du condensé, hein, mais le SMIC, la destruction du SMIC et la trappe à bas salaire, c'est les raisons pour lesquelles les libéraux défendent cet outil-là.
Karine Bécart.
En même temps, malgré tout, ce revenu universel, il répond à une inquiétude forte, c'est que nos carrières risquent de ne plus être linéaires. Voilà, comment on fait quand même pour compenser cette inquiétude qu'il y a face au monde du travail aujourd'hui?
Ce qui a été amorcé dans ce quinquennat, qu'on défend très mal alors que c'est une révolution dans la conception des politiques sociales, qui est le compte personnel d'activité, c'est-à-dire finalement qu'il faut passer de droits sociaux qui jusqu'à maintenant étaient attachés à votre entreprise, à votre emploi, à des droits sociaux qui soient attachés à votre personne, que vous puissiez capitaliser des droits de formation et de reconversion, des droits de retraite plus tôt parce que vous avez eu un travail pénible. Voilà, c'est en personnalisant les droits sociaux en fonction de votre trajectoire et non plus en fonction du poste que vous occupez. Parce que si c'est ça, les salariés des grandes entreprises, ils ont des droits sociaux tout à fait intéressants, et tout le reste des salariés, ils sont condamnés
aux accidents. Mais ça se transforme en sonnant et trébuchant, tous ces droits.
Oui, tout ça, bien sûr, c'est compte personnel. Et ça, ça a été créé dans ce quinquennat.
Oui,
ça a été amorcé dans ce quinquennat. Mmh. Ça commence à se mettre en place, et c'est incroyable que cette révolution-là dans les politiques sociales, on ne le défende pas plus. Ça, pour moi, c'est un des acquis majeurs
Manuel Valls
de ce
le
que
fait
nous
beaucoup,
avons fait.
Hein, quand même.
Vous êtes plus Valls que Hamon, finalement.
Mais je suis plus cherché, mais moi aussi, ça vous intéresse.
Hamon défend le revenu universel. Là, ce que vous venez de présenter, c'est le programme qu'a fait le gouvernement Valls.
Alors, je vais vous, on va rééquilibrer les choses. Hamon, je lui reconnais quelque chose. C'est qu'il fait peut-être les mauvaises réponses, mais c'est un de ceux qui se projette le plus dans l'avenir. On n'a pas l'impression qu'il fait une plateforme.
Bonne question.
En regardant dans le rétroviseur, en disant je vais revenir à des choses, voilà. On a l'impression qu'il dit qu'est-ce que va devenir l'emploi dans les années qui viennent. Donc, moi, je pense que ça va devenir ça, donc j'ai fait le revenu minimum, et ainsi de suite.
Mais
donc, donnons-lui crédit de cela.
Soutenir personne, ça pose un problème quand même, parce qu'on a
le
sentiment...
pas dit que je soutiens.
Là, on a le sentiment quand même que les candidats sont pas assez bons.
Mais j'ai
quoi,
quand même le droit d'écouter ce qui se dit. Mais quand même, c'est quand même inouï.
Dans une semaine, vous votez.
Il est impensable que vous ne votiez pas, parce que vous seriez trop déçu.
Il n'est pas question, mais laissez-nous faire. Il y a plein de gens dans le gouvernement. Faites la liste. Il y a plein de gens qui n'ont pas pris de position.
Enfin, il y en a beaucoup qui ont pris position pour Manuel Valls.
Faites la liste. On n'a pas le temps de faire. Puis vos auditeurs ont des questions à poser. Mais faites la liste. Je vous invite à la faire. Vous verrez que mon cas n'est pas original. J'en parlais hier soir avec mon ami Mathias Fekel, qui est un des jeunes
très
que je
vous
soutiens et auquel je crois pour le renouveau du Parti Socialiste dans les années qui viennent. Il lui dit alors, t'en es où, Mathias? Il m'a dit, je suis comme toi. Voilà, j'écoute, j'attends, je réfléchis. Voilà. Donc là, je vous en donne un, mais il y en a plein d'autres.
C'est dingue quand même, hein, après un quinquennat, d'en être là.
Mais c'est pas mécaniquement, il n'y a pas de candidat qui mécaniquement découle du quinquennat. Il aurait pu y en avoir un, c'était le président de la République, il n'y en a pas. Sinon, c'est une nouvelle page qui s'ouvre là, on le voit bien. C'est 5 ans qui viennent, et donc c'est normal qu'on prenne ce choix très au sérieux pour ce qu'il veut dire pour l'avenir de la gauche.
Allez, on retourne au standard où Jackie nous attend depuis une dizaine de minutes. Bonjour, bienvenue.
Oui, bonjour à tous. Voilà, je voudrais poser une question à M. Mandon. Je voudrais savoir ce qu'il pense du revirement de Manuel Valls concernant le 49-3. Quand Manuel Valls est Premier ministre, il utilise le 49-3. Quand il devient candidat à la présidence de la République, il annonce partout qu'il veut supprimer le 49-3. Les électeurs sont perdus, il n'y a absolument aucune cohérence dans tout ça. Donc c'était pour savoir la position de M. Mandon par rapport à ce revirement de Valls.
Merci Jackie. Thierry Mandon vous répond.
Moi je pense que le 49-3, c'est vraiment absolument à proscrire. Peut-être à part sur le budget, sinon c'est à proscrire. Donc ça c'est ma position de fond. Donc si vous me demandez de juger Manuel Valls, je suis d'accord avec le nouveau Manuel Valls.
Et c'était un bon calcul de dire le tout et son contraire,
bon,
ou est-ce que ça lui a pas nui?
Ça, c'est lui qui... C'était un peu, je crois que tout le monde le reconnaît, un peu abrupt comme revirement.
Uh-huh. Mmh. Ce qu'on appelle un revirement sur l'aile en aéronautique. je donne la parole à Claude. Bonjour Claude.
Allô, bonjour.
Oui, soyez la bienvenue.
Alors, merci à France Inter pour l'intérêt de ces émissions. Alors, j'ai pris l'émission un petit peu en route et du coup, j'avais pas bien entendu le nom de l'invité, mais je trouve cet invité formidable. Moi, je suis fonctionnaire et donc ce qu'il dit sur le rôle de l'État, prendre en charge certaines choses qui sont vraiment importantes pour la société, ça me parle vraiment. Et il se trouve que je suis fonctionnaire de la recherche.
Mmh.
Et je pense que votre invité... Il faudrait vraiment, ce qui serait bien, c'est qu'il soit ministre de la recherche.
Bah, il l'est,
parce
hein.
Parce que, vous voyez, dans la recherche, en ce moment, on crève d'un non-soutien de l'État. C'est-à-dire que les chercheurs sont sans arrêt en train de passer leur temps à chercher des crédits. Les crédits sont passés par des espèces d'instituts, de fondations où on comprend rien du tout, qui sont des fondations de droit privé, qui sont des organismes divers et variés où on comprend absolument plus l'organisation de la recherche en France, alors qu'on a des organismes de recherche qui sont des organismes publics, qui fonctionnent avec des fonctionnaires et qui ont vu leur crédit énormément diminuer. Alors, le résultat, qu'est-ce que c'est? Je vous l'ai dit sur le budget de fonctionnement, c'est-à-dire que on passe son temps à chercher de l'argent pour pouvoir travailler. Mais l'autre aspect, c'est que la moitié, alors je connais pas exactement les dernières statistiques, mais le ministre de la Recherche, si on le trouve, pourrait nous
Il est là, en plateau, Claude, il est là, en plateau. Il s'appelle Thierry Mandon.
J'ai bien compris, mais moi, d'après ce que j'entends dire, tous les rêves dont il nous parle, moi, dans le concret, hier et demain, je le vois pas. Donc, ce qui se passe dans les laboratoires, donc, encore une fois, peut-être qu'il connaîtra mieux les chiffres que moi. Moi, les chiffres que j'ai, c'est plus de 50% des personnels qui font de la recherche sont des personnels qui sont payés avec des CDD de 1 an à 3 ans. Il n'y a plus d'embauche de fonctionnaires. On ne renouvelle même pas tout juste le nombre de fonctionnaires de la recherche. Ce qui fait que tous ces gens-là qui sont en CDD, ça va, ça vient, il n'y a aucun suivi, aucune visée à long terme. C'est une catastrophe.
Et donc, vous avez l'impression d'être... Claude, s'il vous plaît, Claude. Vous avez l'impression d'être uberisé, vous aussi. C'est un dialogue de sourds, là.
On va à la catastrophe.
Alors, on passe la parole à votre ministre de tutelle, Thierry Mandon, s'il vous plaît. Claude, beaucoup de choses dans votre question. Thierry Mandon vous répond.
Oui, sur deux plans. D'abord, les statistiques qui sont évoquées là sur le nombre de CDD dans la recherche intègrent les doctorants. Donc évidemment, on a un chiffre de 50%. Si on l'enlève, on est à peu près 80% d'emplois titulaires. Mais c'est vrai que les emplois non titulaires sont développés ces dernières années du fait de financements liés à ce qu'on appelait le grand emprunt, le commissariat général à l'investissement, qui sont des missions plus courtes. Deuxièmement, bon, on va aller à l'essentiel. Moi, je pense qu'il y a un problème de sous à la recherche. D'ailleurs, je suis là depuis un an. Mon premier combat, en arrivant, j'ai dit, il faut 1 milliard de plus pour la recherche. Et il faut faire ça sur plusieurs années. On m'a pratiquement mis dehors 3 jours après que je sois arrivé pour avoir dit ça. Résultat, on a eu 850 millions cette année. Et je pense, je prépare un livre blanc qui sortira fin janvier, qu'il faut faire ça pendant 3 années qui viennent. Il manque des sous pour que la recherche française reste au niveau où elle doit être au niveau international. Troisièmement, j'ai fait 3 ou 4 voyages en Allemagne depuis un an, depuis que je suis ministre. J'ai quand même eu l'occasion de m'intéresser aux chercheurs en Allemagne, aux chercheurs allemands en Allemagne. Eux, le CDI, ça n'existe pas. Non mais, ça n'existe pas.
Donc
c'est-à-dire que c'est des millions, c'est des missions de 6 ou 7 années, quand heureusement en France, le CNRS, chaque année, depuis le début des quinquennats, remplace systématiquement tous ses départs à la retraite par des créations d'emplois nouvelles, enfin des recrutements, et cette année a même fait un effort de 100 postes supplémentaires par rapport à celle-ci.
Et le modèle français nous semble à préserver.
Il est menacé si on met pas des sous. La remarque pour le coup est juste durablement. Ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Moi, je propose 4 ans avec 850 millions cette année, 1 milliard l'année prochaine, 1 milliard plus 1 milliard. Et surtout, il ne faut pas créer autant de postes de chercheurs. L'indicateur, c'est pas le nombre de postes de chercheurs seulement. Bien sûr que c'est important. Mais c'est aussi les moyens donnés aux chercheurs de faire fonctionner les laboratoires.
Monsieur Mandon.
Parce que si on met tout en salaire, paradoxalement, on fait un goulot puisque les salaires augmentent chaque année, ce qu'on appelle les GVT, enfin, la vieillesse, des primes liées au vieillissement des cadres, bouffent sur les crédits de fonctionnement des laboratoires.
Donc, je voudrais juste revenir à la question, c'est que vous dites, je veux bien vous croire qu'il manque d'argent dans la recherche, personne ne le contestera, mais la France est le pays qui a quasiment le plus d'impôts avec 44% de prélèvements obligatoires et le plus de dépenses publiques, ça c'est certain, avec 57%. Est-ce qu'on coupe?
Non, mais je vais vous dire, mais la recherche, pardon, là aussi, c'est tout ça est passionnant, ça mérite des développements. Le problème de la recherche en France par rapport aux autres pays, il est très simple. C'est pas la recherche publique qui est défaillante. On a un niveau de dépenses de recherche publique par rapport au PIB qui est supérieur à l'Angleterre, supérieur au Japon de dépenses publiques.
supérieur au Japon, qui est comparable aux Allemands, qui, bien qu'ils fassent un effort important là, ces dernières années. Le problème, c'est la dépense privée, de recherche privée. C'est pour ça qu'on est plus bas que les autres. Et quel est le problème ? Et de ce point de vue-là, là aussi, début mars, je rendrai publique une étude que je suis en train de faire. Le problème, c'est qu'en France, la recherche privée, elle bouge pas. Que vous mettiez 3 milliards de crédit d'impôt recherche ou 6 milliards de crédit d'impôt recherche pour aider les entreprises.
Ça marche pas, le crédit d'impôt recherche.
C'est pas que ça marche pas. Je suis arrivé au Parlement en 2012. Mon premier budget, j'ai voté 3,4 milliards de dépenses pour 2011 de crédit d'impôt recherche, qu'on appelle la loi de règlement. Voilà. Cette année, ça va être près de 6 milliards. Donc, ça a presque doublé sur le quinquennat. C'est 3 milliards. Hein. Et le niveau de dépenses privées de recherche dans le pays par rapport au PIB n'a pas bougé en 5 ans.
Pourquoi
vous doublez les aides publiques, ça bouge. Eh ben parce qu'il y a un problème. Les entreprises, bien qu'on les aide, bien qu'on les incite, n'investissent pas de manière macro, plus en recherche qu'elle ne le faisait en 2012. Donc le problème de la France, et ces chiffres-là sont tous vérifiables, je sais qu'il y a des bureaux de vérification, ils peuvent s'en donner à cœur joie, je suis assez tranquille parce que je connais bien ce sujet-là. Le problème de la recherche en France, bien sûr, il faut plus d'argent public, c'est indispensable, notamment pour faire mieux fonctionner les organismes et les équipes de recherche, mais il faut surtout que les recherches privées s'y mettent beaucoup plus qu'elles ne le font aujourd'hui, et bouclons la boucle pour rejoindre tous nos deux. Pourquoi elle ne le fait pas ? Parce qu'on est dans l'illusion de la compétitivité par le moins-disant, par la baisse des coûts. Alors que le vrai créneau de la France pour les années qui viennent, c'est le créneau de la qualité. C'est pas vrai. La France, elle trouvera toujours bien mieux qu'elle pour faire du low cost. Bien mieux qu'elle. Elle est morte si elle cherche systématiquement à diminuer les coûts parce qu'elle considère que c'est ça qui fait souffrir sa compétitivité. Si en revanche, on considère qu'il faut monter en gamme les produits et les services associés à ce produit-là, et donc la recherche a une place centrale pour ça, on a des chances de rester une économie compétitive.
Thierry Mandon, vous nous annoncez un rapport sur l'ENA en janvier, un rapport sur la recherche maintenant. On est en fin de quinquennat. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce quinquennat
pour on va arrêter de travailler ?
Pardon, ma question est précise. Est-ce qu'il y avait une impréparation de François Hollande, de son équipe, qui fait que finalement, vous êtes ministre depuis là, vous avez changé d'affectation. Qu'est-ce qui fait qu'on constate aujourd'hui des choses ? Et même sur le logement, vous l'avez dit tout à l'heure, pourquoi on arrivait à ça au bout de 5 ans, alors qu'on aurait dû commencer par ça ?
Thierry Mandon.
Bon, alors d'abord, on ne va pas me reprocher de continuer à travailler jusqu'au dernier jour. Non, mais je tiens à le dire, parce qu'il n'y a pas de raison de s'arrêter.
Pourquoi ne pas avoir travaillé dès le premier ?
Ou avant ?
C'est ça, ou même avant.
Ce quinquennat aura été marqué par trois crises terribles qui étaient pour le coup pas prévisibles. On n'était peut-être pas suffisamment prêts, hein, si c'est ça que vous voulez m'entendre dire, non. Je suis prêt à le dire. Et je pense qu'on n'était pas prêts parce qu'encore une fois, discussion précédente sur la puissance publique, on n'a pas assez réfléchi au rôle de la puissance publique dans une société d'aujourd'hui. Mais ça mis à part, on est arrivé, boum, crise grecque, énorme menace sur l'euro et sur la situation budgétaire européenne qu'il a fallu gérer dans l'urgence. Deuxièmement, on demande à M. Gallois un rapport sur l'état des entreprises en France, et il nous dit c'est la catastrophe. Si vous aidez pas, entre guillemets, artificiellement, si vous subventionnez pas la baisse des coûts de l'industrie française, vous allez avoir un plan social en grand pendant tout le quinquennat.
Deuxième crise. Ça, vous auriez pu l'anticiper.
Mais d'accord, non, mais enfin, peut-être, mais on n'est pas là pour soulager. J'ai été écrit. Et troisième crise, point. Terrorisme et tout ce qui est lié, qui quand même mobilise des énergies, des intelligences et change des agendas de présidence sans que cela soit prévu. Donc moi, je pense que l'histoire du quinquennat, c'est quand même l'histoire de trois pètes qu'on a pris dans la figure.
Et pouvoir, c'est ça, non enfin,
que... Mais ça... je ne viens pas me plaindre. J'analyse ce qui s'est passé. Peut-être qu'on n'était pas suffisamment prêts, mais en tout cas, on a dû ajuster sur un certain nombre de points essentiels des visions que nous avions, parce qu'on a eu ces trois chocs-là. Je trouve qu'on a tenu sur l'essentiel là-dedans. On a, au plan social, fait des progrès considérables. J'ai parlé tout à l'heure du compte personnel d'activité, mais les présidentielles, c'est des moments de projection. Ce qui compte, c'est de voir comment ce qu'on a fait pendant 5 ans, peut pas être l'horizon, l'alpha et l'oméga d'une politique de gauche pour les années qui viennent. Et par exemple, il fallait booster la compétitivité des entreprises. Ça a été fait par le CICE. Si on fait de ça l'horizon de la politique en direction des entreprises, on se trompe. Si en revanche, on cherche à rapprocher les entreprises de la recherche pour qualifier leurs produits, qualifier leurs services, on va dans le bon sens.
J'accueille au standard Jean-Louis qui nous appelle de Guyane. Bonjour et bienvenue.
Bonjour à vous tous.
Bonjour.
Bonjour. Ma question concerne la proposition de Monsieur Mandon de s'appuyer dans les ministères pour plus sur des spécialistes que systématiquement sur des énarques. Moi, toute ma vie, j'ai été stupéfait que les ministres puissent passer d'un ministère à l'autre, de la santé à l'armée. Et je pose la question à Monsieur Mandon, est-ce que ce qu'il propose ne devrait pas s'appliquer à la nomination des ministres et d'avoir des ministres qui connaissent bien le sujet de leur ministère?
Merci Jean-Louis pour cette question. Thierry Mandon vous répond.
Sur 5 ans, avec les difficultés de la réforme, qui d'ailleurs est plus une transformation aujourd'hui nécessaire qu'une réforme nécessaire, probablement la stabilité des périmètres ministériaux serait utile. Donc disons les choses en français, que le ministre demeure plusieurs années à son poste, ce serait une bonne chose. Et deuxièmement, que les découpages ministériels ne bougent pas. C'est ce qui se passe en Allemagne, par exemple. Ça se passe pas du tout en France. À chaque remaniement, vous avez quelqu'un qui était ministre, qui devient secrétaire d'État, tel secteur qui est finalement rattaché à l'autre, ainsi de suite. Que les périmètres ministériaux soient à peu près fixes, ce serait aussi, je pense, une des conditions pour la puissance publique de retrouver de l'efficacité, parce que c'est dans la durée quand même qu'on change les choses.
Est-ce que vous êtes pour le spoil system? C'est-à-dire Arnaud Montebourg dit qu'il faut changer tous les directeurs d'administration centrale pour qu'ils mettent en œuvre la politique du ministre et ça permettrait de réduire les cabinets qui doublonnent.
Oui,
si j'ai bien compris.
Alors, il faudrait les changer tous. Non, il n'y a pas besoin de les changer, mais en tout cas, il faut se poser la question de savoir s'il faut les changer. Il faut au moins que... Pendant les 6 mois, dans les mairies, c'est ce qui se passe. C'est quand même extraordinaire, ce pays. Dans les mairies, vous êtes maire, vous avez 6 mois pour changer votre directeur des services techniques et votre directeur général d'administration. Dans une mairie. Mais en revanche, dans l'État, non, là, vous avez... Bon, donc il faudrait avoir cette possibilité-là. En effet, ce serait extrêmement utile. Mmh.
On prendra Émile au standard dans quelques instants, mais j'aimerais, pour l'heure, accueillir l'équipe des Pixels du Monde.
Question politique sur France Inter. En partenariat avec Le Monde.
Avec Martin Untersinger. Bonjour Martin.
Bonjour Nicolas.
L'université forme-t-elle suffisamment bien au métier du numérique? Grande et belle question.
Bonjour Thierry Mandon. Alors cela fait maintenant quelques temps que l'on évoque beaucoup la question du numérique à l'université sur 2 volets différents mais complémentaires. D'une part, l'utilisation des nouvelles technologies à l'université pour améliorer tous ses enseignements et d'autre part, la capacité de cet enseignement supérieur à former aux nouveaux métiers qui sont apparus dans l'univers du numérique. Sur le premier volet, en 2013, votre gouvernement a adopté une stratégie numérique pour l'enseignement supérieur. Une première expérimentation concrète était d'ailleurs supposée se terminer en décembre, il y a quelques semaines. Qu'en est-il ou qu'a donné cette expérimentation et concrètement, ça ressemble à quoi une université qui se numérise?
Thierry Mandon.
Ça ressemble à l'université de Bretagne. Où, par exemple, vous avez un système de cours dans un certain nombre de villes moyennes bretonnes, avec des cours qui ne sont pas virtuels, mais avec des universités virtuelles. Toute la Bretagne est couverte aujourd'hui de lieux où des étudiants qui veulent faire une licence n'ont pas besoin de se rendre dans une université pour faire une licence, mais par cours et par des pédagogies qui ont été rénovées font ce travail-là.
Est-ce que l'université française elle a rattrapé son retard en 2013 au moment où la loi a été adoptée? On disait beaucoup l'université française est très très en retard par rapport à ses autres pays.
Je pense qu'il est en retard. Je ne sais pas qualifier exactement parce que je manque d'outils diagnostiques précis. Il y a un effort considérable. On a nous-mêmes, comme vous le savez, lancé tout un plan de transformation numérique qu'on a élaboré avec le Conseil national du numérique. On a identifié une dizaine d'universités sur lesquelles on est en train vraiment de changer de braquet. Mais en tout cas, il faut aller beaucoup plus loin. Mais ce qu'il faut, c'est pas avoir l'illusion numérique. Hein. C'est pas croire que parce qu'on va former les étudiants au numérique, on aura répondu au problème. C'est profiter du numérique pour accélérer des transformations de l'université, repenser la pédagogie, voilà. Quand vous pouvez, ce qu'on appelle la pédagogie inversée, quand vous pouvez, plutôt qu'apprendre en amphithéâtre où on entend à peine le professeur, apprendre chez vous et vérifier que vos connaissances dans des TD, c'est mieux que quand on fait le système classique. Enfin, donc c'est articuler tout ça, c'est une des priorités que je m'étais donnée pour une année.
Et s'adapter au numérique, on imagine que c'est coûteux. Est-ce qu'aujourd'hui l'université française, elle a les moyens de prendre ce virage ou de s'adapter?
Franchement, je ne le crois pas. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut mettre toujours mon histoire de milliard. Je ne le crois pas, parce qu'il y a un choc qui arrive à l'université, et tant mieux, qui est le choc de la progression des effectifs, et que si on veut absorber et la progression des effectifs, et la transformation de l'université sur un certain nombre de ses fonctions principales, il faut mettre de l'argent. Avis à tous les candidats aux primaires, de gauche comme de droite. L'OCDE, qui n'est pas suspect d'être pro-gouvernement, hein, plutôt on fait généralement la critique d'être des libéraux, dit qu'un diplômé de l'enseignement supérieur rapporte en France, un peu plus que la moyenne de l'OCDE, 80 000 euros à la nation, parce qu'il est mieux payé, il trouve un travail plus vite, enfin bref, dans sa carrière, il se reconvertit plus vite. Donc ce n'est pas de l'argent mis par les fenêtres. Je reprends autrement la question que M. Le Parmentier tout à l'heure. Investir dans l'enseignement supérieur et la recherche, c'est vraiment investir pour le développement du pays.
Nathalie ?
Thierry Mandon, vous avez dit dans une interview que la sélection pour vous n'était pas un gros mot. Si on investit justement sur des étudiants, est-ce qu'il ne faut pas les sélectionner pour être sûr, et à quel niveau ? Et n'était-ce pas à l'entrée, dès l'entrée à l'université, plutôt que de le faire plus tard. Et si on le fait plus tard, au moment du master, on le fait selon quel principe ? Est-ce que ce n'est pas quelque chose, finalement, qu'il faut mettre à plat ? Parce que les souvenirs de la loi de Vaquet, ils ne vont pas nous hanter pendant 200 ans.
Mais moi, j'essaye. Ce n'est pas toujours facile. Quand je dis, j'essaye de faire. Et je fais. Sur la sélection en master, il ne vous a pas échappé que non seulement la loi a été votée en fin d'année... Maintenant, c'est possible de sélectionner un certain master et en même temps, il y a un droit à la poursuite d'études
pour ceux...
Non, c'est pas du tout un peu, pas du tout. Et le décret est sorti. Et que je sache, ça a été voté par tous les partenaires de l'enseignement supérieur, présidents d'université qu'ils réclamaient depuis des décennies, parce qu'il y a ceux qui parlent de la sélection mais qui la font pas, là, elle est faite, et syndicats étudiants. Donc, tout le monde est d'accord. Sur la licence, sur l'entrée à l'université.
Parce qu'il y a quand même 29% qui sont inscrits en licence au début, qui ne se retrouvent plus en master. Donc ouais.
Il y a trois sujets. Ça, c'est un point majeur. D'ailleurs, ça va être une de mes priorités d'ici la fin du quinquennat, que d'aller visiter partout en France les expériences intéressantes sur la réussite en licence. Premier sujet, c'est un peu tôt, l'orientation définitive qu'on demande aux étudiants. On a mis en place une année de césure pour qu'ils arrêtent leurs études, qu'on puisse arrêter ses études, puis revenir ses études. Moi, je me demande s'il ne serait pas utile qu'entre le baccalauréat et la première année de licence, ceux qui veulent faire un service civique, partir à l'étranger, enfin, ils puissent avoir un temps de maturation personnelle de leur projet, de l'orientation et une expérience autre que ce qu'on peut avoir au lycée de la vie. Deuxième sujet, le prérequis à l'entrée de l'université, il existe.
Voilà. Vous trouvez qu'il est suffisant ?
C'est la question, mais là, pour le coup, ça regarde l'éducation nationale. Il s'appelle le baccalauréat. Donc, soit le baccalauréat prépare les étudiants à l'université, mais il n'y a pas raison de rajouter une couche supplémentaire entre le baccalauréat et l'entrée à l'université.
On les sélectionne avant.
Peut-être qu'il faut regarder de plus près le baccalauréat. Troisième point sur cette réflexion, l'orientation, c'est le chantier, alors là, prioritaire absolu des années qui viennent. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas assez accompagnés, les jeunes, et notamment dans les milieux sociaux les plus en difficulté. Ils sont pas assez, ils comprennent pas, et Dieu sait si je me mets à leur place, je comprends, l'univers très compliqué des universités, des écoles, des parcours qu'il faut faire. L'orientation, ça doit devenir une matière à part entière de la première et de la terminale pour rendre les chances d'accès et de succès dans l'enseignement supérieur plus égales qu'elles ne sont aujourd'hui.
Martin.
Thierry Mandon, l'autre volet du numérique à l'université, c'est est-ce que l'université forme suffisamment bien aux nouveaux métiers ? On a l'impression que l'enseignement supérieur public est dépassé, contourné par le secteur privé ou des innovations hybrides, par exemple dans l'apprentissage du code. Est-ce que c'est un échec de l'enseignement supérieur en matière d'enseignement du numérique ?
Il y a des écoles comme l'école 42 de Xavier Niel, hors état, hors tout.
C'est tout à fait impressionnant. Alors là, c'est un modèle qui n'est pas du tout un modèle enseignement supérieur pour une raison qui est privée, mais pas seulement son financement, dans sa logique même, puisqu'il s'adresse à tout le monde et principalement à des non-diplômés. C'est-à-dire que cette école est fantastique, quoi qu'on pense de ceux qui l'ont financée par ailleurs. Il faut être lucide, j'y suis allé. Ils prennent des gens qui n'ont pas de diplôme et ils les transforment en spécialistes.
C'est ça que devrait faire l'université.
C'est extraordinaire, oui. Mais je ne connais pas assez le détail de toutes les universités françaises pour vous dire que ça ne se fait pas. Ça se fait peut-être. Ce qu'en revanche je vois, c'est qu'aujourd'hui, les plus grands, pour notre malheur, de l'informatique mondiaux, Google, Facebook... UI, je peux en développer, viennent chercher les étudiants français pour ouvrir leur centre de recherche ou pour nourrir leur centre de recherche. C'est donc quand même qu'il y a des compétences à l'université, là je ne parle pas de grandes écoles, à l'université, telles que ces grands acteurs-là se disent, là il y a une réserve de compétences et de connaissances que l'université française produit.
Martin. Il y a un autre sujet sur la formation numérique, c'est la question de la présence des femmes. Elles sont déjà moins présentes que la moyenne dans certaines filières scientifiques. Dans le numérique, c'est encore pire, à la fois sur le versant formation et dans les entreprises, dans les start-up. Selon vous, que faire pour essayer de rééquilibrer les choses ?
Thierry Mandon.
L'univers du numérique est un univers, ça se voit, on parlait de l'école 42 tout à l'heure, c'est un univers de mecs.
Que faire pour changer ça ?
Je ne sais pas, c'est indispensable qu'on le fasse, qu'on le conçoive, mais je pense qu'il faut faire travailler des gens, peut-être des chercheurs en sciences humaines, qui nous indiqueraient beaucoup mieux qu'on les voit aujourd'hui, les leviers sur lesquels il faut agir pour que ça se fasse. C'est un problème, je suis désolé, je n'ai pas la réponse à tout seul. Je m'applique à moi-même ce que je reproche.
Le principe d'incertitude.
Voilà. Mais c'est, à partir du moment où on a bien fait le problème, il y a nécessité de faire bouger les choses.
Arnaud Le Parmentier a une question.
Oui, une petite question. Vous avez dit pas de sélection, mais alors on fait du tirage au sort, si j'ai bien compris. C'est-à-dire, grosso modo, on ne veut pas évaluer les élèves, mais on tire au sort, c'est plus simple. Ou est-ce que j'ai mal compris ?
C'est stupide.
Le tirage au sort ?
Oui, c'est totalement stupide. Moi, c'est mon premier combat. Encore une fois, j'aurais pour moi de dire j'ai eu qu'une année. J'ai réussi à le faire baisser de 60%. Ça existe depuis des décennies. Hein. Tous les gens qui vous parlent de sélection, ils ferment les yeux sur le tirage au sort. Depuis, moi, j'ai baissé d'une année, d'une rentrée sur l'autre de 60%. Donc, il reste 40% à gagner. Et je pense qu'un couplage, plus de moyens à l'université pour augmenter dans certains domaines des capacités d'accueil, mais aussi une orientation plus réussie, parce qu'il y a des étudiants qui se précipitent à l'échec. On le sait, dans un certain nombre de disciplines, il faut leur dire, les gars, regardez les choses sérieusement, ça nous éradique définitivement le tirage au sort. À mon avis, sous 2 ans, on peut le faire disparaître.
Martin. J'ai une dernière question sur un autre sujet. Ça peut paraître anecdotique, mais je pense que ça ne l'est pas. Le CNRS a récemment fourni aux autorités une liste des chercheurs amenés à consulter des sites djihadistes dans le cadre de leurs recherches. Parce que votre gouvernement a fait adopter le délit de consultation habituelle de sites terroristes, vous trouvez ça normal que la loi, comme ça, fragilise la recherche et les chercheurs ?
Non, il faut aller beaucoup plus loin. La protection des chercheurs et des sources des chercheurs doit être beaucoup renforcée. J'avais essayé de le faire quand le débat s'est venu au Parlement. Bon, je n'ai pas été entendu suffisamment. Ce combat reste à mener. En revanche, on a été entendu sur des sujets qui vous concernent. Et on est aujourd'hui un des pays les plus avancés sur l'ouverture des données et la fouille des données. Et ça, c'était un enjeu majeur. Et on fait ça avec le CNRS et beaucoup de parlementaires que vraiment je remercie. Aujourd'hui, les équipes de recherche françaises peuvent utiliser toutes les possibilités du data mining, de la fouille des données, avec un cadre réglementaire qui les protège et qui en fait pour dans les meilleurs standards internationaux.
Pour l'instant, le portail Open Data du ministère de la Recherche, il est
oui,
pas très
fort. Oui, mais j'ai pire que ça. J'espère arriver à ça avant. 3 jours après mon arrivée, j'ai demandé quel était le code Wi-Fi du ministère. Et on m'a expliqué qu'il n'y en avait pas. De Wi-Fi au ministère de la Recherche. Écoutez, j'aurais aimé vous donner la date définitive. On m'a promis qu'avant, le 15 février prochain, il y aurait enfin un travail. Il y aurait enfin un Wi-Fi pour tout le monde au ministère de la Recherche. Et vous voyez, ça renvoie à notre débat de tout à l'heure sur la puissance publique moderne, sur la compréhension de ce qui est essentiel. Pour moi, c'était un chantier absolument vital qu'il y ait le Wi-Fi au ministère de la Recherche. Pas parce que je suis fanatisé par le numérique, mais parce que c'est un élément d'attractivité.
C'est même hallucinant que...
Non, mais il y a des systèmes bricolés ici ou là, mais ça va marcher, ça va se faire. Mais pourquoi c'était important ? C'est que c'était un sujet vital pour le ministère. Parce que c'est une question d'attractivité. On a plein d'étrangers qui viennent. C'est quoi ? Ah ben, il n'y en a pas. Et on va y arriver. Il a fallu se battre à travers un certain nombre de difficultés administratives. C'est pas normal d'avoir dû se battre. Ça devrait être l'évidence.
Et alors,
ça
attention,
prouve que la puissance publique augmentée, c'est encore à construire.
Le mot de passe, pas 1, 2, 3, 4, hein, quand vous aurez votre nouveau Wi-Fi.
Il n'y a pas de Wi-Fi, sinon.
Merci Thierry Mandon. Taisez-vous, Arnaud Le Parmentier. Merci Martin Untersinger, Nathalie Saint-Cry, Karine Bécard. Et merci évidemment, Arnaud. Merci à vous, amis auditeurs et téléspectateurs, d'avoir participé à Questions Politiques. Passez une bonne fin de week-end. À dimanche prochain.